Bienvenue au podcast, ici Michael Cyr, kinésiologue et préparateur physique. Aujourd'hui, à l'épisode, je vous propose Alex Boily, qui est entrepreneur pour Révolution Santé, donc c'est sa propre compagnie, mais qui tient aussi un podcast du maintenant. Dans le fond, Alex est un ancien collègue au football, donc au niveau sportif, mais aussi dans lequel on a fait à peu près le même cursus universitaire. Mais bien sûr, c'est tellement peu comparé à toute la discussion qu'on a eue concernant sa mentalité d'entrepreneur, comment il gère son employé, comment il est venu aussi à fonder sa propre entreprise. Donc, sans plus tarder, si vous voulez avoir plus d'informations, je vais laisser dans l'espace commentaire ou encore dans la description le lien de sa compagnie, mais aussi dans son podcast. Donc, merci à tous, bon épisode et bienvenue à la barre haute!
Coupera quand ça te tendra.
Je comprends. Ben écoute, je veux savoir d'abord comment ça va. Depuis le temps qu'on s'est vu, quoi, ça fait la dernière fois qu'on s'est croisé, ça remonte quand même à plusieurs années. Hein.
Sûrement 2018, ouais, sûrement 2018. Fait que ça va bien. Tabarouette, j'ai de la misère à... Tu sais, je dis ça, puis j'arrive de des vacances qui... Je l'ai partagé un peu sur les réseaux sociaux, mais c'est la première fois que là, j'étais un petit peu au bout du rouleau. Là. Mais pas tant, pas négativement que j'aime pas ma vie, que tu sais, c'est toute une espèce de fatigue positive. C'est juste que j'ai pris bien des mandats avant de partir en vacances, puis j'étais obligé de... J'étais overloadé un petit peu, manque de sommeil, puis j'étais brûlé, là, c'était rendu que j'étais irritable. J'étais rendu avec une couple de symptômes sur la direction de l'épuisement, mettons, là, tu sais, fait que c'était comme à point. Mais tu sais, je veux dire, malgré ça, là, je suis super conscient, fait que je me suis reposé à mort, puis là, déjà, je suis top shape, ça va vraiment bien, puis... Je ne suis pas dans une position qui est difficile à plaindre. Je suis très bien dans ce que je fais.
OK, mais si tu me permets qu'on ouvre une parenthèse là-dessus, tu dis que tu as plusieurs mandats. C'est sûr qu'on va y revenir un peu plus tard aussi avec ton parcours, mais c'est quoi qui... Ça consiste en quoi à peu près tes mandats là, qui t'ont fait un peu prendre conscience de ton épuisement?
Mais le problème, ce qui m'ont mené plus à là, le problème, c'est tout le temps les échéances. Tu sais, je pense, peu importe l'ambition que tu peux avoir dans la vie, ça a du sens. Le problème, c'est tout le temps l'échéance que tu mets pour réussir à le faire. T'sais. Puis dans le fond, pour faire une histoire rapide, on fait un bout que la communauté puis même des membres de mon équipe ont un intérêt à ce qu'on publie un livre de recettes parce que moi, je ne suis pas un grand consommateur de livres de recettes. Fait que je ne voyais pas la pertinence. J'étais plus dans l'enseignement. Puis là, un moment donné, j'ai comme fait « OK, c'est une bonne idée, mais je ne suis pas la meilleure personne qui peut contribuer. Il va y avoir nos règles alimentaires, bien évidemment. Fait que je vais superviser ça, mais je ne le ferai pas nécessairement. » Puis là, j'ai une personne dans mon équipe qui est responsable de projets spéciaux divers comme ça, fait qu'elle vient chercher un peu des ressources. Fait qu'elle a fini par trouver une édition qui était prête à monter ce projet-là. Mais produire des recettes, c'est vraiment dispendieux parce que, ben d'un, moi, comme je disais, je fais pas ça, là. Je serai pas assis à chercher des recettes puis transcrire des affaires. C'est toutes des affaires que je délègue de plus en plus. Ce qui fait que ça prend quelqu'un qui conçoit, qui connaît la cuisine, tu sais, pour être capable de faire des vraies bonnes recettes, qui connaît sa nutrition pour réussir à équilibrer un peu la patente. Puis, fait que ça coûte cher, ce qui fait que, tu sais, mettons, un livre de recettes là, qui a 90 recettes dedans, ça doit coûter 60 000 piastres à produire en photographie, en nutrition. Fait que là, on se rendait compte que c'était peut-être pas optimal d'avoir un livre que de recettes. Fait que, tu sais, l'auditeur nous a comme dit, ben on serait prêt à financer une partie des recettes, c'est l'édition qui paye. Mais là, il manque comme 160 pages dans le livre qu'il faut mettre d'autres. Fait que là, il suggérait d'écrire, dans le fond, sur le sujet de l'alimentation. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé finalement à faire plus un guide d'alimentation fonctionnelle, un guide complet d'une certaine façon. Puis là, je me suis retrouvé à rédiger l'équivalent du trois quarts ou sinon plus d'un livre complet finalement en 6 semaines à peu près. Mais c'est moi qui ai pris l'engagement parce que l'édition, elle voulait publier ça en 2025. Puis je trouvais ça trop loin. Les retombées, parce que dans le fond, il y a un moment précis dans l'année où ce qui publie les livres de ce type-là, que c'est là que c'est le plus lucratif. Puis ça prend comme 5 mois d'avance avant de pouvoir... Faut que tout soit prêt, révisé, édité, corrigé, au moins 5 mois d'avance de la publication. Fait que là, tu sais, ça me menait vite en 2024. Fait que je voulais pas repousser en 2025. Fait que tu sais, je veux dire, je suis entièrement responsable. Mais dès que tu mets une échéance comme ça, ça fait que, maintenant, la seule place que tu peux trouver du temps, c'est en dormant moins, puis en te le faire plus tôt, puis peut-être coucher plus tard. Fait que c'est un peu ça, c'est plus ça, plus je me suis engagé dans une formation, j'ai fait une formation d'entrepreneuriale pour améliorer le département succès client avant mon départ, puis c'était une super grosse formation aussi que j'offrais pour, c'était pour mes employés que je faisais ça, puis en même temps je laissais accessible à d'autres entrepreneurs qui voulaient développer cette affaire-là, ça était des gros mandats avant mes vacances, là. Fait que c'est ça qui fait que ça me fatiguait, là.
OK, mais ça ressemble à quoi ton livre de recettes? Parce que, tu sais, parce qu'on a toujours un petit peu de spécificité dans certains livres. Tu fais-tu des Pokéballs? Tu fais-tu du véganisme? Tu sais qu'il y a un temps que tu faisais un petit peu sur le keto, puis un fasting, ouais. Je ne suis pas sûr encore. Mais ça ressemble à quoi à peu près ton livre que tu avais prévu écrire, en fait, que tu écrivais actuellement?
Ce qu'on enseigne, c'est l'alimentation fonctionnelle. Mm-hmm. C'est rendu que je résume pas mal l'alimentation fonctionnelle comme étant ma façon de vulgariser l'alimentation selon la recherche que je fais. Je pense pas que... dans ma vie, là, j'ai rendu que je vois de plus en plus les choses en disant il est supposé avoir juste une vérité. T'sais? Ça veut dire si, mettons, toi puis moi, on essaie de trouver la meilleure réponse, puis on a tous les mêmes objectifs en tête, puis on a tous les mêmes arguments, on est supposé arriver à la même solution, là, techniquement. Fait qu'il y a comme une seule vérité d'une certaine façon. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Et tout le monde n'a pas les mêmes informations, les mêmes arguments pour statuer ces affaires-là. C'est ce qui fait que j'ai l'impression qu'il y a plus de chicanes qu'autrement. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui est vegan pour des raisons éthiques et environnementales, mais c'est sûr qu'on ne sera jamais d'accord sur la méthode d'alimentation parce que sans dire qu'il n'y a pas quelque chose là, puis je ne peux pas faire un effort pour blablabla, ben, notre résultante n'est pas la même. Fait que c'est sûr qu'on n'arrivera pas au même résultat. Fait que là, c'est normal qu'il y ait des besoins comme ça. Puis moi, je ne suis pas cette personne de référence-là pour quelqu'un qui va être végétarien ou vegan, parce que c'est pas mon combat à moi. C'est pas la façon que je le fais. Mais si on veut juste faire en sorte que le corps fonctionne le mieux possible, bien, techniquement, on serait supposé passer de la même façon. Fait que dans le fond, ma perception qui est bien différente, j'ai réalisé dans le fond à échanger avec des gens, c'est que je me fie rarement à des données statistiques pour porter des conclusions. Tandis que la plupart des recommandations sont faites comme ça. Tu sais, par exemple, le Guide alimentaire canadien est recommandé comme ça. Puis ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise façon de procéder, c'est juste une façon qui est différente. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le meilleur exemple, c'est probablement ça. Je n'ai pas de meilleur argument que dire c'est de la bullshit, là, mais c'est un peu comme là la viande rouge qui a vraiment une perte de popularité et que c'est si grave que ça. Mais les études qui nous illustrent ça, ce sont surtout des études statistiques qui font que on voit là qu'il y a une corrélation, ça veut dire que quand les gens mangent beaucoup de viande, ils semblent avoir plus de problèmes cardiaques et compagnie, mais on n'est pas capable d'expliquer la cause à effet. Puis moi, je trouve que notre responsabilité, c'est de comprendre la cause à effet, parce que sinon, c'est comme si, mettons, je sais pas, tu as un succès dans la vie, puis je vais faire la même affaire que Michael, je vais avoir exactement le même succès, mais pas nécessairement. Il faut que tu comprennes c'était quoi son contexte, c'est quoi le contexte des actions, puis que tu comprennes la cause à effet, ce qui a réussi à faire ça. Fait que c'est un peu absurde. Fait que c'est le fameux exemple de dire, souvent on a dit que les œufs c'était mauvais pour la santé, c'est ce que les statistiques nous disent. Mais dans le fond, si c'est parce que quand on mange des œufs, on mange aussi du bacon, puis des crêpes, puis des... Ben, finalement, c'est peut-être les crêpes et le bacon, c'est juste que vu qu'ils sont tout le temps ensemble, c'est ça la différence entre une corrélation et une cause à effet. Fait que j'essaie plus de... Moi, dans le fond, dans ma perspective, c'est que les stats nous donnent des informations intéressantes. Puis après, j'aime ça voir si, d'une façon un peu plus clinique, on est capable de voir des résultats. Ça veut dire, mettons que tu me dis que la viande rouge, là, c'est des affaires qui ne se testent pas en recherche, mais si tu me dis que la viande rouge, c'est problématique pour la santé, on est-tu capable de le provoquer vraiment? T'sais, c'est un peu ça. Là, ça ne se fait pas en recherche. Là, c'est ça que ça devient compliqué en science. Mais c'est plus cette perception-là que j'ai. Fait que dans le fond, je vais avoir la philosophie plus de dire un seul aliment, c'est quoi mes arguments de dire que c'est bon ou c'est mauvais dans le corps? Puis quand tu te mets à faire ça pour chacun des aliments, ben, tu te rends compte qu'il y a des grandes règles qui font en sorte qu'on ne devrait pas se nourrir de telle façon. Puis en général, ces grandes règles-là respectent à peu près tous les régimes alimentaires. Parce que tout le monde va arriver au moins, au minimum, sur une couple de grandes règles qui ne sont pas vraiment négociables en termes de santé, qui sont saines. Fait que j'appelle ça l'alimentation fonctionnelle. Parce que pour moi, c'est une alimentation qui permet juste de laisser ton corps fonctionner comme il devrait fonctionner quand il est de façon optimale. Là, c'est pas rien d'autre que ça.
Mais tu amènes un bon point, par exemple, par rapport, justement, comparaison entre ce qu'il y a autour, mettons, je donne l'exemple de la viande rouge parce que c'est ce que tu as illustré, là, versus juste la viande rouge parce que, comme tu dis, si pour vraiment que ça fonctionne, encore là, il faudrait enlever énormément de variables, dont il faudrait qu'il y ait un groupe d'intervention qui soit axé juste « je mange que de la viande rouge quasiment à tous les fois » versus autres qui n'en mangent pas. Je dis ça de façon sommaire, tu peux me corriger également, là, mais...
Non, mais c'est ça, c'est facile. Ça, c'est facile à faire à court terme. Le problème, c'est qu'on le sait que les problèmes se développent peut-être sur 10, 20, 30, 40 ans. Fait que là, c'est là que tu peux pas dire à quelqu'un, mange donc juste de la viande rouge pendant 40 ans. Les stats montrent que c'est pas génial. On voudrait voir si c'est vrai.
Ouais.
Ça marche pas tant. Là. Fait que c'est ça qui est le problème. Il y a des trucs qui s'expliquent pas super bien. Puis des fois, c'est juste des études de cas aussi. Des fois, il y a une personne qui, de son plein gré, elle a décidé d'entreprendre ça. Puis, une équipe de recherche a décidé de faire une observation en même temps parce qu'une équipe de recherche n'a pas le droit de soumettre quelqu'un, c'est pas éthique, de demander à quelqu'un de faire de quoi que tu sais qu'il va être mauvais pour sa santé, mais quelqu'un peut décider de le faire. Fait que si moi, je décide de faire, de battre le record du jeûne qui est, je pense, de 380 jours, je sais pas trop, ça n'a pas de sens, puis je vais essayer de faire 400 jours de jeûne, personne ne peut me le soumettre, mais si moi, je décide de le faire puis j'accepte qu'une équipe de recherche me supervise, ben ils vont le faire. Puis des fois, il y a des données comme ça qui nous permettent, mais ça, c'est jamais pris en considération, mettons, pour Santé Canada. Fait que je dirais que d'une certaine façon, c'est de permettre de comprendre un peu une vue macroscopique du corps, comment il marche. Moi, c'est ma vision, que tout le monde marche de même à peu près. Puis après ça, vivre l'expérience toi-même puis voir comment ça s'adapte dans chacun des contextes. Je suis beaucoup ce temps-ci, je dis je suis là, puis c'est au-delà de suivre parce que ce gars-là, il est fou raide, mais le docteur Andrew Huberman, qui est un directeur de recherche à Stanford, là, parce que je dis que c'est plus que de le suivre parce que ces podcasts durent 3 heures et sont extrêmement denses et intenses sur les sujets.
Sont denses, puis si tu ne parles pas en anglais de façon assez fluide et continue, ouais. j'ai déjà écouté quelques-uns, c'est super intéressant, mais rendu à la moitié, j'ai tellement perdu le contrôle de ma concentration. Là. Mais c'est tout intéressant dur. La façon qu'il amène ça. Là.
Mais c'est ce qui est le fun, par exemple, avec le podcast, c'est que tu peux le prendre en 2, 3, 4 bouchées si tu veux. Mais tu sais, c'est réellement l'équivalent d'un cours universitaire de 3 heures. C'est cette lourdeur-là. C'est exactement
écoute,
ça.
Écoute, je me rappelle d'un. Ben, écoute, parlant de lui justement, je me rappelle d'un de ses épisodes qui parlait seulement de l'eau. Là, au début, je ferais ça tellement bizarre parce qu'il parlait juste de l'eau. Je dis, pourquoi tu parles de l'eau? Tu sais, de l'eau, c'est tellement plate comme concept, comme nutriment, mais aliment. Mais au final, tu fais comme « Ah! » Il va vraiment pousser sa...
Oui, il fait 3 heures loin, sur là. L'eau.
Oui.
Ah, c'est ça, c'est malade. Mais ça, je trouve ça vraiment hot, les gens qui sont réussis à se dédier à faire ça. Moi, ça serait pas ma quête de réussir à faire ça. Là. Mais c'est un peu ça. Fait que, bref, j'écoute son stock, puis ce que j'ai trouvé fascinant maintenant en entrevue, je pense que c'est avec Tim Ferriss qui est en entrevue, puis il explique. Fait que dans le fond, c'est lui qui est l'invité. Et j'avais jamais pris ça en considération tant que ça. Ça veut dire, souvent, on a tendance à demander aux gens, c'est quoi ton objectif? Puis on va répondre quelque chose comme perdre du poids, avoir plus d'énergie, prendre de la masse, ce qui est très, très large puis très vague. Puis lui, ce qu'il disait, c'est, maintenant, on n'a pas le choix d'aller voir comment notre corps réagit sur des affaires bien précises, l'essayer dans notre vie puis voir comment ça va. Puis là, il disait, parce que tout le monde veut avoir des retombées différentes de chaque affaire. Fait que dans le fond, parce que la façon qu'on pourrait le dire, c'est que la plupart du temps, quand on entreprend des changements, on a tendance à juste voir la vue macroscopique des objectifs, puis pas microscopique. Ce que je veux dire par microscopique, c'est... je vais donner un exemple que lui a donné. Ses entraînements qu'il fait, il y a certains types d'entraînements qu'il ne fait pas pendant certaines journées, précisément parce que ça gruge trop d'énergie. T'sais. Puis quand tu te défonces solidement dans un entraînement qui est trop long, ça diminue ta capacité cognitive, amène ta concentration et puis pareil. Puis lui, dans son contexte, dans ces journées-là précisément, tu sais, quand je dis microscopique, c'est que ça commence à être précis. Un entraînement comme ça crée, selon ses objectifs de vie, plus d'effets négatifs parce qu'il perd un peu une demi-journée de travail ou quelque chose du genre, puis il ne peut pas se permettre ça. C'est que quand tu te mets à dire c'est quoi le meilleur entraînement à faire pour, puis que tu mets en plus le contexte extrêmement précis de l'individu, ben, ça se peut que ton entraînement qui est whatever, le meilleur supporté par la science pour prendre de la masse, mais si lui le fait à 1 heure l'après-midi ou à midi sur son heure de dîner, puis il perd tout son après-midi de travail au complet, ben ça se peut qu'il dise ça vaut pas la peine, je peux pas utiliser ce protocole-là, il faut utiliser d'autres affaires. Je vais donner un autre exemple qui est. Fait que lui, mettons, il y a, je sais pas les références, j'aurais aimé ça avoir les réponses, mais par exemple, l'ashwagandha, il parle souvent de ça, c'est un supplément qui diminue le cortisol. Quand tu finis de t'entraîner, ton cortisol est vraiment élevé, puis c'est ce qui peut faire en sorte que tu as une certaine forme de fatigue puis un épuisement. Puis quand tu diminues le cortisol, ça peut t'aider à te sentir mieux. Mais ce qui explique, c'est que le cortisol, il s'élève parce qu'il y a un stress, puis il faut qu'il réagisse au stress, fait que ça t'aide à récupérer. Ce qui fait qu'il ne recommande pas vraiment de prendre de l'ashwagandha pour ça, mais il existe un autre supplément bien précis que lui, ça lui permet, que je ne me rappelle plus le nom de celui-là, par exemple, mais que ça permet de diminuer les symptômes de fatigue, mais ça ne garde pas le cortisol dans le plafond. Fait que, tu sais, ça commence à être niché de dire, ben moi, dans ce contexte-là, si je me permets de faire un entraînement trop intense, je dois prendre ce supplément-là, je l'ai essayé, puis il me permet de passer une bonne après-midi. Et je trouve que c'est un peu ça, notre but. Fait qu'il y a des fonctionnements globaux du corps humain, mais après, c'est à toi d'aller trouver la recette, mais toujours, à mon avis, en comprenant la cause de ça, tu sais. Tout est relatif à la situation, finalement, mais il faut comprendre les causes à effet, tout le temps.
Donc, c'est vraiment d'aller chercher ce qui te convient le mieux. Fait que, tu sais, c'est le même principe qu'une personne est plus apte à faire des entraînements ou plutôt des activités de longue durée comparativement à quelqu'un qui est plus fort. Tu sais, tu y mettras peut-être pas de quoi qui va l'épuiser, puis au final, qui va perdre sa productivité. C'est ça que je comprends, tu sais, sa capacité cognitive.
Mais tout devient facteur. Parce que, tu sais, mettons, tu parles d'endurance. Quand on parle de perte de poids et de remise en forme, la plupart des gens vont dire de ne pas faire d'endurance parce que, bon, en termes d'amélioration de la composition corporelle, là, c'est peut-être le meilleur terme à utiliser. Ben, de fait, de prendre de la masse musculaire, ça va être meilleur que nécessairement faire de l'endurance. T'sais. Mais si moi, j'haïs ça pour mourir, faire de la force ou faire des sprints, puis ça fait que je n'ai fait pas mes entraînements, puis ben, ça peut être. Puis si moi, ça me permet vraiment de gérer mon stress, puis ça peut être approprié. Fait que tout est tout le temps très relatif au contexte. Puis je pense qu'on a une responsabilité individuelle, là. Même pas ton coach, tu as une responsabilité individuelle de comprendre un peu ces causes-là, c'est quoi les causes à effet de ces actions-là, puis dire, ben, hey, tu sais quoi, j'aime mieux pas perdre ces effets positifs-là qui sont pas si, puis dans le fond, mettons, pas prendre de masse musculaire parce que je fais pas d'entraînement en force, si c'est ton cas, ou en hypertrophie, puis faire de l'endurance parce que c'est ce que j'aime, puis sinon, je le fais pas. Fait que c'est comme, ben, c'est légitime d'avoir cette opinion-là, puis de dire, ben, je ne rendrai pas de masse, puis c'est pas grave, j'aime mieux ça. Cool, c'est ton choix. T'sais. Mais tu sais, ce que je dis là, ça devient vraiment piqué. À un moment donné, il y a une base, mettons, en termes d'alimentation fonctionnelle, il y a une base qu'il faut que tu comprennes qui est juste universelle. Puis après, ben, ton plaisir, ça devrait être de faire, je suis mieux de faire ça là ou cette journée-là. Puis c'est un peu toi qui devrais avoir des arguments, pas tant ton coach, pas tant ton entraîneur, juste à observer comment tu te comportes avec ces changements-là dans ton quotidien.
Non, totalement. Tu as totalement raison. Il y a plusieurs outils dans la vie, il faut savoir ça. C'est en fait notre job, en fait, nous autres, on est bons pour leur expliquer qu'est-ce qui pourrait peut-être fonctionner, faire des essais, puis éventuellement, et aller avec ce qui fonctionne le mieux pour la personne.
Exact. Simplement. Mettons, je vais te donner trois scénarios différents de la même histoire un peu. Ça ressemble quand même, mais j'ai un peu de misère à dormir, je veux dire, positivement, pas parce que je suis stressé, parce que je suis très créatif, puis mon cerveau, des fois, il arrête pas. Je suis pas capable de... Mais un petit côté, on dirait qu'il y a moi qui aime ça, continue de penser à ces affaires-là. Je m'auto-alimente sûrement, mais... Fait que moi, mon truc, maintenant pour dormir, c'est que j'écoute quelque chose qui est du divertissement, fait qu'il faut pas que ce soit stimulant. Souvent, c'est des podcasts un peu plus humoristiques, moins sérieux. Je mets mes AirPods comme j'ai en ce moment, je me couche dans mon lit, je mets le son vraiment en bas pour presque pas les entendre, puis j'écoute couché. Juste l'audio, parce que si j'ai du visuel, le visuel puis les écrans, c'est trop stimulant, fait que souvent, ça nous garde réveillés. Puis à un moment donné, je commence vraiment à m'endormir, puis là, je fais juste... J'ai ma boîte de AirPods dans les mains, tu sais. Puis là, je commence à m'endormir, je fais juste enlever mes écouteurs, je les mets dedans, puis j'ai réussi à m'endormir. Je parlais à un gars qui travaille avec moi qui a le même problème. Il a développé le même truc, mais c'est autre chose. Il écoute d'autres affaires, puis il y a comme une autre méthode. L'autre fois, j'entendais le gras de Tom Beaulieu de Impact Theory, qui est un Américain qui a un podcast bien réputé aussi pour... la performance en général, là, à faire toutes les sphères confondues. Puis il disait la même affaire à lui, mais il écoute des romans. Puis il y a un écouteur. Puis il dit le son est tellement pas fort qu'il faut que je pèse sur mon oreille pour entendre. Ce qu'il dit, fait qu'il dit dès que je m'endors, puis la pression s'enlève, ben je m'endors tout de suite. Puis, et tu sais, tout ça pour dire que c'est une formule qu'on a trouvée, nous autres, qui marche, là, puis qui se ressemble. C'est quand même drôle que ça se ressemble. Mais il y a plein de gens que ça va être autre chose. Puis il y en a qui ont un supplément de magnésium, ça va être knocké bien raide. Puis il y en a que ça va être, je sais pas, une méditation quelconque. Il y en a que ça va être de lire un roman. Ça m'est arrivé l'autre fois, je vais essayer de lire des romans, voilà, une couple d'années, plutôt que lire des livres éducatifs puis qui stimulent le cerveau. Puis tabarouette, je trouvais le moyen de rêver à l'univers du livre que je lisais. Puis ça marchait pas, qu'est-ce que ça, je te dis?
Tu te rappelles, tu sais quoi tu lisais?
Ouais, je lisais... Le quatrième tome de Eragon, là, ils ont fait un film de cette série de films-là.
Oui.
Mais il y a quatre livres. C'est techniquement une trilogie, mais le troisième livre, le troisième livre, je pense, il a fini par faire deux livres avec. Puis c'est ça, ils ont sorti juste un film, mais il y avait techniquement quatre tomes. Je pense que je lisais le dernier tome. C'est le troisième ou le quatrième, je ne sais plus. Puis peut-être qu'à force de lire, j'aurais fini par m'habituer. Puis là, c'était trop nouveau, mais j'ai comme mis ça de côté. J'ai fait tant pis, là, c'est pas nécessaire.
J'avais pas que tu me dises que tu lisais Fifty Shades of Grey. J'étais comme, oh, crème, OK.
Non, j'aurais peut-être dit. Peut-être ça aurait fait... Non, ça, c'est sûr. Ça, c'est le genre d'affaires qui m'empêcherait de dormir aussi, par exemple. Je me connais.
Ah, c'est une bonne parenthèse. C'est une bonne parenthèse. Écoute, dans le fond, j'avais préparé des questions par rapport à la raison pourquoi je t'avais invité au podcast, parce que on se connaît depuis plusieurs années quand même. On a quand même fait le même parcours, disons, d'école. T'sais, on a été au secondaire, on a eu le même parcours sportif. On a joué au football aussi au secondaire, au cégep. Puis après ça, on s'est un peu perdu pendant un an, deux ans. Puis tu étais revenu au bac en kinésiologie à l'UQAQ avec moi. Dans le fond, c'était la deuxième.
D'un an. On s'est distancé.
D'un an seulement. Ah, écoute, ça faisait une éternité.
C'est moi le grand paresseux qui a pris un break entre mon cégep et mon université pour faire un voyage à travers les États-Unis. Fait que, ouais.
C'était pas au Canada?
Ah, je pensais non, que c'était aux États-Unis. Non, on a fait à peu près le mi-desk américain. Là, fait qu'on est descendu, nous autres, on était... C'est quoi les États? On a traversé les douanes à Détroit. Puis là, c'était l'automne. Là, fait qu'on n'a pas fait grand-chose. Le nord, on ne l'a pas trop exploré, ce volet-là. On est descendu direct au golfe du Mexique, là, plus Mississippi à peu près qu'on était. Puis après, on a longé tout le sud. On est remonté jusqu'en Californie. On a longé le sud à peu près. On est allé jusqu'à San Francisco, puis on est revenu. Presque, j'allais dire d'un seul coup, là, mais je pense que ça a pris 6 jours de route, là, tu sais, à dormir, puis rouler, puis dormir, puis rouler, faire San Francisco jusqu'à Détroit. Ma blonde a de la famille, ça a pointe, là, proche de Détroit, mais en Ontario, juste l'autre côté des lignes. Fait qu'on est allé là passer une couple de jours, puis après ça, on est revenu à la maison. Ouais, c'était notre petite aventure.
Intéressant. Puis au moins, tu aurais pu avoir un minimum de minimiser un petit peu les coûts avec la famille à ta blonde. C'est quand même le fun dans ce temps-là quand tu fais un long voyage.
Ouais, mais hein, parce que ça a duré 5 mois, fait que c'est quand même de la petite gestion budgétaire quand même. Ça va être pas mal organisé, mais t'as raison.
Je pense que c'était pas van life, mais disons, c'est quasiment ça, en caravane?
Ouais, on avait c'était un peu drôle, mais tu sais, ça, c'est tellement des trips de jeunesse, quoi, que je n'irais pas nécessairement ça encore, pas que je ne serais pas capable d'endurer ça, mais on avait acheté une vieille roulotte là, qui était chez Tabarot, je ne sais pas l'âge qu'elle pouvait avoir, je ne me rappelle plus trop, mais sûrement comme 20 ans au moins, là, sûrement. Puis parce qu'on n'avait pas un gros budget de comme, je ne sais pas, ça devait être 18 pieds, là, c'est que c'était tout petit. Il n'y avait même pas un lit permanent dedans, tu sais, c'était comme un divan qui slidait en lit double qu'il fallait défaire à tous les jours, puis on a vécu 5 mois là-dedans, tu sais. Fait que ça a fonctionné, mais il y avait quelque chose de trippant et d'excitant là-dedans. J'étais tout seul avec ma blonde aussi, fait que ça change un peu toute la patente. Mais c'est là d'ailleurs que j'ai choisi. J'hésitais à l'époque, ça me fait rire de penser à cette histoire-là. Il y a une des raisons, quoique pas la seule, mais il y a une des raisons que ça s'est passé là, c'est parce que je n'étais pas certain de mon choix à l'université. La kin m'intéressait, la kinésiologie, puis je savais déjà que le domaine entrepreneurial m'intéressait. Fait que probablement plus un autre programme quelconque en lien avec l'entrepreneuriat, mais plus général. Administration des affaires, puis des trucs comme ça. Puis c'est tellement drôle, je trouve ça drôle de raconter ça. Quand j'étais dans ma roulotte, là, il venait un temps où il fallait que je m'inscris, tu sais, parce que ça se passe comme au printemps. Puis c'est ça, en tout cas, je ne sais plus quand. Là,
environ printemps. La date limite, je pense que c'était en mars, mai, peu importe.
Ouais, c'est ça, quelque chose du genre. Puis je me disais, si je trouve une idée d'entreprise, je vais en kin. Une idée en kinésiologie. Puis si j'en trouve pas, je vais en admin. Fait que je pourrais aller n'importe où, tu sais. Puis tu sais, que mon projet entrepreneurial, ça n'a aucun rapport avec ce que je fais aujourd'hui. Je peux pas croire qu'on est jeune, qu'on pense qu'on peut anticiper 4 ans d'avance sans savoir même pas c'est quoi vraiment le métier de kinésiologue, sans savoir c'est quoi l'entrepreneuriat faire. Moi, je vais décider aujourd'hui. Mais ça, des fois, on se casse le bessic avec des décisions que finalement, on a toujours Mais c'est ça, c'est ce qui m'a amené un peu, malgré tout, à où est-ce que je suis aujourd'hui.
Mais c'est quoi que tu as amené vraiment dans l'entrepreneuriat en tant que tel? Parce que tu sais, moi, de ce que je connais, tu avais quand même 1000 projets. Tu avais 1000 trucs que tu as essayé en même temps, puis là, tu as fini par trouver ta niche. Fait que, pourrais-tu en parler un petit peu de ce processus-là, disons, créatif, entrepreneurial?
C'est une bonne question. Il y a quelque chose dans ma nature qui faisait partie de l'entrepreneuriat, tu sais, puis c'est pas aussi évident que je vendais des limonades dans ma rue quand j'étais jeune, j'ai pas fait ça, tu sais, c'est pas cette évidence-là, mais j'ai l'impression que j'ai toujours eu... mettons, la perception que je vois l'entrepreneuriat pratiquement là, dans ma tête, c'est vraiment une façon d'optimiser ton succès dans la société, dans l'univers dans lequel on est, qui est du capitaliste. Ça, on n'a pas le choix, c'est le cas. C'est à peu près la seule façon que je le vois. Fait que, tu sais, je me vois pas comme un entrepreneur en me voyant je suis un inventeur, puis un créatif. Puis je pense que ça, ça se développe de plus en plus. Puis probablement que je le suis un peu, mais je veux dire, je me vois pas comme un inventeur en tant qu'entrepreneur. Je me vois plus en comment je suis capable d'optimiser l'accessibilité des ressources qu'on a pour réussir à avoir plus. Puis ça, je me rends compte que j'ai fait ça tout le temps. Puis fait que j'ai toujours eu un sens un peu de la vision, puis d'essayer de créer quelque chose. À titre d'exemple, quand je jouais dans n'importe quel jeu vidéo qui avait des groupes, des clans, des... Ben, j'étais tout le temps quelqu'un qui avait une espèce de vision, puis j'étais comme, je veux créer ça. Puis on dirait que j'avais jamais rien d'autre qui était à hauteur de mes standards à moi, fait que je me retrouvais tout le temps à créer ça. C'était plus ça qui me poussait à dire, je pense que je vais être dans l'entrepreneuriat. À titre d'exemple, tu sais, j'ai déjà fait, à travers les multiples périples que tu fais référence, tu sais, j'ai déjà fait du marketing de réseau que je respecte énormément. Tu sais, des fois, il y a des gens qui ont une mauvaise perception de ça, avant ou après leur propre expérience. Moi, malgré que j'ai fait une expérience là-dedans, j'ai une très bonne... Je pense vraiment que ça a sa place dans le marché et ça répond à un besoin de quelque chose. Mais mettons, moi, je me suis rendu compte que ça ne fitait pas avec moi parce que j'étais un gars qui veut tout contrôler puis je suis prêt à faire aucun compromis sur ma réputation puis sur mon nom. Fait que tu sais, moi, si le service à la clientèle de la compagnie de marketing des réseaux n'est pas tout à fait à la hauteur de ce que moi je voudrais selon mes standards à moi. Puis là, mes clients à qui je parle puis que je leur vends des affaires sont obligés de subir ça. Ça fait pas. Là. C'est suffisant pour que je fasse pas capable de travailler avec vous autres. Ça marche pas. Puis là, je suis pas dans un environnement où je peux contrôler le service à la clientèle. Je peux pas aller là pour intervenir, pour donner des conseils puis essayer de les aider. Je suis un gars proactif dans la vie. Là. S'il y a un problème, je vais essayer de l'aider. Mais fait que ça me poussait tout le temps à ce concept-là d'entrepreneuriat. Avec le temps maintenant, j'ai réalisé qu'il existe des milieux à la hauteur que j'aurais pu ne pas être un entrepreneur, puis être ce que qu'on appelle des fois un intrapreneur, là, tu sais, que ça veut dire que c'est quelqu'un à l'interne, mais tu es un entrepreneur dans une institution. Quand tu es dans un milieu où il y a vraiment des gens qui ont les valeurs qui sont les mêmes que les tiennes, puis qui ont confiance en toi, puis qui te donnent une liberté de contrôler le département ou peu importe c'est quoi le projet que tu as, je me rends compte maintenant que j'aurais pu m'accomplir dans une entreprise comme ça, je pense. T'sais. J'ai des coachs que j'ai eus qui c'était ça leur entreprise. Je le voyais, puis j'étais comme, hey, je pense que je regarde travailler pour eux autres. Puis je pense que c'est ce qu'on a comme entreprise, nous autres. C'est que moi, mon mandat, c'est mon directeur de marketing, c'est le boss du marketing. C'est ta business. C'est juste que c'est la même affaire. Là. C'est tes revenus, c'est l'entreprise qui t'es donne. C'est-à-dire, c'est techniquement à moi qui t'es donne. Mais ça revient au même, c'est que tu as des revenus à gérer, tu as des dépenses à gérer, tu as une équipe à gérer, tu as des rendements à gérer. C'est la même affaire, c'est juste une plus petite entreprise à l'intérieur d'une entreprise. Fait que je me rends compte que j'aurais pu, mais j'ai toujours eu ce désir-là de, je sais pas, je n'étais pas prêt à diminuer les standards, il fallait que ça se passe comme moi je voulais, sinon ça méritait. Fait que dès que tu me mets des bâtons dans les roues, ça méritait un peu. Il y a un autre côté, ça c'est le côté un peu plus libre de l'entrepreneuriat, puis il y a un autre côté qui est, je pense que ça s'est fait inconsciemment dans ma tête. Je l'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps. Mais je pense, j'aimais l'hypothèse que quelque part dans ma vie, en tant que jeune enfant, on crée des perceptions et des croyances quand on est jeune. Puis je pense qu'à travers des échanges entre des adultes, sûrement de mon environnement, j'ai créé dans ma tête le fait que l'argent, c'était souvent un problème. Pourtant, là, il n'y a personne dans ma famille rapprochée, puis frères, sœurs, oncles, tantes, qui sont dans des situations financières précaires, qui ont vécu des affaires désagréables. Il n'y a personne. Mais j'ai dû voir du monde qui chiolait là-dessus. Mais oui, tout le monde chiole tout le temps là-dessus. Là. Fait que je ne dis pas que j'ai vu quelque chose de traumatisant, mais je sais, j'ai réalisé un moment donné que dans ma tête, comprendre comment faire de l'argent, c'était une équation importante dans le concept de pouvoir profiter pleinement de la vie, d'une certaine façon. Puis mon père, il disait tout le temps dans la vie, tout se fait puis tout s'apprend. Il n'était jamais impressionné de personne, mon père. Peu importe ce que je lui montrais, il était tout le temps comme, ben oui, si tu apprends comment il fait, puis tu prends le même temps, puis les mêmes efforts, puis tu vas être capable de le faire. Il a toujours eu cette philosophie-là. Fait que moi, mon cerveau, on dirait qu'il a fait, si l'argent crée autant de problèmes et que tout s'apprend, pourquoi on n'apprend pas comment régler ce problème-là? Puis tu sais, fait que je ne suis pas très matérialiste dans l'âme ou... Pour moi, c'est un indicateur de croissance, c'est plus de clients aidés. C'est fait que, tu sais, je trouve ça. Mais c'était comme une de mes quêtes que j'avais aussi. Fait qu'au-delà de l'entrepreneuriat, j'avais plus un homme, je vais dire, investisseur qui est dans l'optique de faire comment je suis capable de prendre de l'argent pour faire de l'argent. Puis crée une forme de liberté financière qui fait que j'ai pas besoin. Faut pas que ça soit dans ma liste de problèmes dans ma vie, idéalement. T'sais. Fait que c'est un peu ces deux affaires-là. Fait que je sais pas si je réponds à ta question, je sais pas si tu voulais que je fasse plus un historique de tout ce que j'ai fait. Mais tu sais, mettons, au sens large, c'est un peu ça qui m'a amené dans ce monde-là.
T'es pas obligé de faire un historique, non, je te laissais aller, c'était super bon. Tu pouvais continuer aussi longtemps que tu voulais. Ce que j'ai aimé quand même comme partie, puis je vais peut-être paraphraser un petit peu de ce que je comprends. Tu sais, l'argent en tant que tel, on en parle, mais pour toi, c'est pas vraiment comme une indication de performance. Comme tu as comme dit, une petite ligne après, comme toi, ta mesure de performance en tant que tel, c'est plus les clients aidés, et ainsi de suite. L'argent, c'est juste comme un outil concret pour le démontrer, je crois, mais en fait, mais aussi tous les commentaires, puis. Puis l'aider de ceux que tu as aidé, si j'ai bien compris ce que tu voulais dire un peu.
Bien, c'est sûr que l'argent est un indicateur de performance, d'une certaine façon, mais je veux dire, c'est pas comme... C'est que dans la vie, il y a des... Je trouve que ça, on parle pas assez de ça. Dans la vie, il y a des affaires que c'est des non-négociables qu'on parle pas. Ça veut dire que techniquement, on dirait que c'est non-négociable, on les prend pour acquis. Ça veut dire... C'est con, là, mais être honnête, être respectueux d'être intègre avec tes clients, de faire quelque chose qui te passionne, d'être heureux tous les jours. Tu sais, c'est des affaires que ça, on ne parle jamais de ça. Ça veut dire, si tu me demandes, Alex, comment tu fais pour avoir du succès en affaires, je prendrai probablement pas le temps de te dire, premièrement, fais quelque chose que tu aimes, sois intègre et respectueux. C'est comme des affaires que c'est des grandes évidences de la vie, mais qu'on se dit peut-être pas. Puis pourtant, moi, c'est, en tout cas, ça fait, peut-être parce que ça fait partie de mes valeurs, peut-être c'est mon éducation. Le football, le jouer beaucoup, là, tu sais, le... Pat Boudreau, qui était le coach, tout son honneur vraiment là-dedans, je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de valeurs qu'il a créées avec la rigueur qu'il avait en tant que coach, tu sais, là-dedans. Mais il y a plein d'affaires que moi, je ne prévais jamais compromis. C'est des non-négociables. C'est impossible que j'aille là, tu sais. Fait que dans le fond, pour moi, l'argent, c'est un indicateur de performance au sens où il y a une réalité où si mon entreprise fait deux fois plus d'argent que l'année passée, ça va mieux. Mais pourquoi? Parce que dans ma tête, c'est impossible que j'aille en arquer quelqu'un. Si quelqu'un n'est pas content de son argent, d'avoir dépensé de l'argent, qui nous écrit, on va le rembourser? On n'est pas là pour voler de l'argent. On est là pour faire un échange. Ça veut dire, tu me donnes de l'argent, moi, je te donne un service, puis tu es supposé considérer que tu en as plus que pour ton argent. Sinon, c'est un mauvais deal. Fait qu'on on va te le redonner. Il y a tout plein de sous-entendus là-dedans. Fait que pour moi, un indicateur de performance, l'argent est un indicateur de performance au sens où les choses techniquement vont mieux, puis inévitablement, c'est plus de clients, mais toujours sous prétexte qu'il y a un respect là-dedans, puis il y a un échange équitable qui a été fait. Mais c'est clair, net et précis que notre mission, c'est d'avoir un impact chez les gens. Puis je me rappelle précisément du moment où j'ai fait ce chiffre-là, parce que un moment donné, j'ai engagé. Au début, j'étais. À peu près tout seul, j'ai engagé un adjoint, puis j'ai engagé quelqu'un pour m'aider à prendre des appels exploratoires pour vendre les produits et services que j'avais. Parce que c'est l'affaire qui prend le plus de temps. Là. C'était rendu que je prenais 15 heures par semaine, j'étais juste au téléphone pour prendre des appels. Là, si tu vends ces 15 personnes-là, il faut que tu es coach. Fait que là, faut, le reste du temps, il faut que tu es coach. Tu as du marketing à faire, c'est impossible. Fait que les ventes, c'est une des affaires qui prend le plus de temps. Fait que j'ai engagé quelqu'un en vente et on parlait d'une personne. Et moi, à ce moment-là, j'étais à un point de ma vie où ça fait probablement 2 ans et demi, à peu près, peut-être 3, je ne sais plus, que je suis cassé bien raide. Là. Je ne fais pas d'argent. Tu sais, chez nous, quand j'ai lâché mon autre job pour me lancer à mon compte, j'étais le plus gros salaire de la famille. Puis j'étais comme, ben, let's go, faut que ça marche. Là. Fait que on a vécu avec très peu de salaire, là, tu sais, comme en bas de 30 000 piastres par année, salaire familial avec 2 enfants, c'est génial. Fait que on était vraiment cassés pendant comme un gros 2 ans, puis là, ça commençait à bien aller. Mais comme solidement bien aller, on devait générer comme 10 à 15 000 piastres par semaine de revenus, puis j'avais presque pas de staff à ce moment-là. Fait que c'est sûrement un des moments dans ma vie où j'ai eu le plus de revenus, là, tu sais, que je m'aurais pu me verser ça en salaire et toute la patente. Puis j'avais tellement vécu des années qui étaient tough que là, j'avais peur d'engager puis de continuer de croître. Parce que j'avais peur que ça me remette dans une situation précaire puis que j'étais essoufflé. Là. Tu sais, tantôt, je disais que j'étais épuisé à mes vacances à cause que j'avais 6 semaines de rush. Mais dans le 2 ans, je ne sais même pas. J'ai dû rester en vie parce que c'était une nécessité, parce que je comprends pas comment j'ai pu toffer aussi longtemps à travailler autant parce que je faisais juste tout mon possible pour réussir à générer quelque chose. Tu sais. Puis bref, quand je parle à ce vendeur-là en question que je viens d'engager, ça fait quelques semaines que là, tabarouette, je fais du revenu de façon significative. Tu sais, j'ai eu du coaching, du mentorat, ça m'a permis d'aligner mes flûtes comme il faut, puis c'est surtout ça qui a permis d'aider à patente. Là. Puis je jase avec, puis je lui dis, je sais pas si ça me tente. Mon coaching me dit, maintenant que tu as fini, mettons, cette formation-là, la suite logique, c'est que tu passes de solopreneur à directeur général, CEO de ton entreprise, plutôt que devenir un employé de ton entreprise, que tu deviennes un gestionnaire de ton entreprise. Puis ça construit des équipes, des départements, etc. Puis je disais, j'ai peur, stiche, que je suis brûlé, tu sais. J'ai encore un petit fond de brûlé, là. Ça commence à bien aller, mais j'ai un petit fond que ça ne me tente pas de retourner là-dedans. Puis bref, on parle de ça, on arrête notre conversation. Puis là, il me parle d'une cliente qui a eu une conversation aujourd'hui. Puis c'est une dame que, tu sais, elle avait comme plus de 100 livres à perdre. Puis là, il explique un peu les types de programmes qu'il y a. Puis là, il explique qu'on a des formations en ligne sur l'alimentation, l'entraînement, tatata. Puis il y avait comme, il a demandé, on demande tout le temps aux gens, comment ta famille deal avec ça? T'es-tu incommodant? Puis elle a répondu, rien. C'est bien chill, il n'y a pas de problème avec ça. Fait qu'on était comme, OK, cool. C'est le fun de savoir qu'au moins, il n'y a pas des facilitateurs, mettons, là-dedans. Puis un peu plus tard, quand on dit, ouais, il y a des plateformes de formation, tout ça, elle a répondu, ah, ben c'est cool de bord. Fait que mon garçon va pouvoir aller écouter ça. Parce que, puis là, genre, ils ont, je sais pas, il y avait genre 16 puis 17 ou 16 puis 18. Puis il y avait toutes les deux au moins 100 livres à perdre. Puis quand il me dit ça, les jambes m'ont scié. Tu sais, j'étais comme, ça n'a pas de sens qu'à cet âge-là, il y ait déjà un surplus de 100 livres. Puis tu sais, moi, il faut comprendre, là, j'étais un peu comme, souvent, là, je ne sais pas si tu as déjà eu un assureur qui tu sais, moi, mettons, les assurances chez nous, c'est moi qui est, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est moi qui est contrôle, même eux autres à ma femme. Fait que je peux appeler l'assureur et dire, hey, finalement, si je meurs, je donne plus mon argent à elle, puis si elle meurt, donne plus l'argent à moi, donne-le à quelqu'un d'autre. C'est moi qui choisis, parce que c'est ça qu'on l'a mis même, parce qu'elle, elle gère pas ça, puis elle s'en fout. Puis l'assureur, il capotait, parce que lui, il voit continuellement du monde qui se sépare avec quelqu'un de malhonnête. Puis là, l'autre profite de ça pour... Fait qu'il voit le pire du pire tout le temps, comme les notaires, il voit les pires divorces, les pires séparations, comme les avocats qui voient les pires poursuites. Fait que moi, je vois deux enfants, entre guillemets, adolescents, whatever, de jeunes adultes, de 16-18, puis je deal avec du monde qui ont 40, 50, 60 ans, que ça fait 20, 30, 40 ans qu'ils essaient de perdre du poids, qui ont fait le yo-yo, qui sont malheureux, qui n'ont pas confiance en eux autres, qui ont des problèmes de santé. Je deal ça avec tous les jours, puis là, je vois deux personnes de 16-18 que c'est le cas. Puis on se dira ce qu'on voudra, c'est parce que la famille, elle n'a pas l'information pour prendre des bonnes décisions et s'éduquer adéquatement. Puis s'éduquer eux-mêmes, ils n'ont pas d'éducation alimentaire, ils ont pas, ça ne fait pas partie de notre culture, tu sais. Fait que bref, tout ça pour dire que les gens me scient bien raide, les gens me scient. Puis là, je suis comme... C'est comme si ma conversation d'avant, je me dis... Hey, je suis en train de dire, mon gros problème, c'est... Je ne sais pas, ça me tente d'engager des gens parce que je vais avoir des problèmes à gérer. Puis d'un autre côté, il y a genre, je ne sais pas combien de milliers de personnes qui ont des problèmes d'obésité, de surplus de poids. Fait que là, j'ai shifté mon mode en mode, hey, c'est pas tant une game d'argent, là, tu sais. C'est vraiment une game de, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Puis je me rappelle très bien d'avoir un peu interrompu la conversation avec la personne qui travaillait pour moi, puis de dire, hey, je peux pas croire que je te disais ça, là, 5 secondes. Je suis comme, on a une responsabilité d'essayer d'atteindre le plus de clients possible. Puis depuis cette journée-là, je suis tellement optimiste par rapport à ce que je fais. J'ai plein de problèmes, là. J'ai 100 fois plus de problèmes avec des employés que si j'avais été tout seul. Puis je dirais même, je fais bien moins d'argent. Parce que tout seul, ma notoriété serait construite. Il y aurait sûrement une liste d'attente pour qu'ils deviennent mes clients. Mais là, je suis tombé en mode, OK, c'est ailleurs. Je le sais, par exemple, que la journée où je suis brûlé, je suis épuisé, je suis tanné, je suis pas heureux. Je sais que tout le monde apporte, puis je sais que tout seul, en tant que travailleur autonome, je suis capable de gagner ma vie pour le reste de mes jours. Puis ça, c'était quelque chose qui était important, fait que ça crée une sécurité. Mais maintenant, je suis en mode mission. J'essaie juste d'avoir le plus d'impact possible, le plus de gens possible. Puis là, il y a 1 million de projets encore plus grands qui s'en viennent dans toutes les options que je suis capable d'aider du monde dans la vie, pas juste nécessairement dans le domaine de la santé. T'sais. Fait que c'est ça qui nous a mis en mode mission.
Puis tu sais, en même temps, tu sais, tu peux pas avoir nécessairement les mêmes problèmes que si tu étais tout seul ou avec des employés. T'sais, probablement que les problèmes sont différents. Peut-être pour toi, sont peut-être un peu plus challengeants aussi en fonction de ce que tu es rendu en ce moment.
Puis, on tous a les pas, problèmes grandissent.
Ouais.
C'est juste ça. T'sais, c'est vraiment facile. Je vais te donner un exemple. c'est vraiment facile. Moi, quand j'étais plus solopreneur, je réussissais tout le temps à quelque chose allait mal, puis je step up. Puis ça va bien, là, je réussis à faire de quoi de spécial. Puis la fois que j'ai comme fait, OK, là, on est vraiment rendu dans un autre game, c'est que là, au début, j'ai engagé des vendeurs, je supervisais les vendeurs. Là, maintenant, j'ai engagé un directeur des ventes. Puis l'équipe de vente prend, mettons, 70 appels par semaine. Là, ça va mal. Puis là, t'es comme, OK, mais ça va mal, mais on fait, mettons, je sais pas, quoi, whatever, combien de ventes par semaine. Là, je veux dire, des chiffres à toi, mettons, on fait 20 000 piastres de ventes par semaine. Puis là, ça va mal, on en a fait la moitié, tu sais. Ben là, c'est tellement rendu gros que ça ne peut plus être, c'est plus moi, là. Je ne peux pas faire hey, j'ai un projet, on va step up, je vais vendre le 10-12 000 qui manque cette semaine. Là, tu comprends? Ça ne marche plus parce que c'est ta capacité à faire en sorte que l'équipe marche. Fait que là, c'est drôlement fucked up comment tu n'as plus le contrôle sur rien. Tu as un contrôle indirect. Puis là, c'est vraiment là dans ma vie que le terme leadership a pris tout son sens. J'ai comme fait, OK, mon succès dépend à 100% de ma capacité à influencer des gens à performer parce que je ne peux plus compenser pour eux autres. C'est impossible. Il faut juste que je les inspire, je les influence. Puis c'est, faut que j'influence le directeur des ventes qui réussit à influencer son staff. Là. Fait que c'est quand même vraiment fucked up comme situation. Puis là, ben, tous les problèmes deviennent gros. Là. Tu sais, une semaine que tu n'as pas de vente, ben, tu sais, 20 000 piastres que tu n'as pas. Là. C'est pas genre, ouais. Oh, on a 2 000 de moins cette semaine. Fait que tout devient vraiment plus gros tout le temps. Ça fait partie du jeu. Là.
Mais tu sais, tu remarqueras quand même que en parlant de leadership, tu sais, la façon que tu le présentais, ça ressemble un peu aussi avec ce que tu faisais en début. Mais ce que je comprends en début justement de ton entreprise, parce qu'on n'en est pas encore mentionné, parce que là, tu as parlé de perte de poids, tu as parlé de transformation physique en tant que telle. Fait que tu sais, ça, c'était vraiment, je pense, ton cheval de bataille qui t'a permis d'aller beaucoup plus loin dans ton cheminement d'entrepreneur. Fait que tu sais, en même temps, cette qualité-là que tu appliques avec tes employés, tu les avais probablement déjà en toi aussi par rapport à tes clients au début.
Il y a un mix de tellement d'affaires là-dedans. Je t'avoue, ben, des fois, je ne comprends pas ça vient d'où, tu sais. Mettons, quand je dis un mélange de plein d'affaires, je pense que les gens qui nous ont côtoyés dans notre vie, même là, sans qu'on le sache vraiment, à notre jeunesse, ça joue un rôle vraiment important sur des modèles puis la perception qu'on peut avoir de gérer certaines situations spontanément. Fait qu'on le sait, là, comment le subconscient fonctionne maintenant. Il se construit dans les 7 premières années de notre vie à peu près, puis ça se fait automatiquement. C'est juste que ton cerveau créer des conclusions en fonction de ce que tu vois autour de toi. Là. C'est à peu près ça, puis ça crée des automatismes. Fait que si tu as un environnement autour de toi qui est, je vais dire négatif, mais pas négatif au sens vraiment officiellement négatif, là. Tu sais que tu peux dire, c'est pas quelqu'un qui insulte les autres, mais juste une mauvaise réaction qui est tolérée dans la société ou qui est vue comme normale. Tu sais, quel exemple que je pourrais donner? J'aime mieux donner un exemple, parce que là, c'est un peu nébuleux, qu'est-ce que je dis, mais mettons un couple qui se chicane, tes parents se chicanent, mais ils sont juste en désaccord. Mm-hmm. Puis quelqu'un qui a la réaction en disant laisse-moi tranquille, puis laisse-moi faire, là, j'aime ça de même, c'est ça, là, là, mettons ça. C'est une réaction normale, il n'y a pas personne qui a s'en faire, elle n'a pas manqué de respect à l'autre, elle n'a pas crié après, mais ça a une connotation d'être fermé d'esprit plutôt que faire je comprends pas ton point, qu'est-ce que tu veux dire par là, où tu essaies de te mettre à la place de l'autre, que l'autre essaie de se mettre à la place de l'autre. Fait que c'est un détail petit, mais toi, tu apprends à gérer que quand quelqu'un te confronte, ben, tu dis ça. Fait que ça ne te met pas dans l'ouverture, ça ne te met pas dans le récrastinement. Fait qu'il y a une grosse partie de ça, définitivement. Puis je ne saurais pas dire qui spécialement dans mon environnement, mais je pense que ça peut être un facilitateur. Après ça, le football qu'on a eu, ça a été définitivement quelque chose qui nous a formés dans plein d'affaires, sa discipline, sa rigueur, sortir de notre zone de confort, se nous donner une confiance, etc. Je pense que les coachs qu'on a eus, j'ai nommé Pat tantôt, entre autres, mais je pense que ça, c'était des vestiges de bon exemple de leaders. Je pense qu'ils nous ont formés à être des exemples, des leaders par l'exemple. C'est beaucoup ça, le leadership. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est de donner des ordres. Ça le joue un facteur, c'est sûr. Après ça, je fais énormément de développement personnel et de lecture. Ce qui fait que, techniquement, là, si on peut le voir de cette façon-là, j'ai continuellement des gens... En passant, là, je veux tout le temps dire ça partout, si je peux le répéter autant que fois que possible. Les livres, c'est la valeur la plus sous-estimée qui existe de l'histoire de l'humanité. Là. J'allais dire, pour finir ma phrase, j'allais dire, dans les livres, on a la capacité d'à peu près d'avoir Bill Gates, Steve Jobs, Ray Dalio, qui est mon livre préféré, son livre Principles, que des hommes qui ont des plus grands succès au monde, puis ils t'ont écrit dans des livres comme le leçon. Ça a l'air banal, mais toi, dans ce temps-là, tu lis, tu vois comment il réagit, puis tu apprends des façons qu'il réagit. T'sais. Fait que moi, j'ai tellement lu là-dedans que j'ai lu, avant même d'avoir des employés, j'ai lu sur comment développer de la culture d'entreprise, comment créer une équipe, comment avoir une philosophie. Je faisais pas exprès, je lisais n'importe quoi. Fait que je tombais là-dedans. Mais ça, je pense sérieusement que quand j'ai commencé à engager, j'avais des réflexes que si, mettons, mon père avait été entrepreneur, j'avais eu toute ma jeunesse avec, je l'aurais vu gérer ses employés comme ça, j'aurais agi ainsi, j'aurais appris ça. Mais moi, dans le fond, ce que j'ai appris, parce que j'ai jamais eu d'employé, ça a été dans les meilleurs au monde en termes de gestionnaire d'entreprise, puis je lisais leurs mots, puis j'étais comme, OK, ben c'est de même qu'on crée une culture, c'est de même qu'on gère des employés. Et je pense que ça, ça le joue un rôle. Puis, tu as raison, je considère qu'être coach, ça a plus à jouer avec la capacité à influencer, convaincre ou inspirer, on pourrait le dire comme ça, l'autre devant toi, que d'avoir les bonnes techniques. Parce que si tu as la meilleure technique au monde et tu ne réussis pas à communiquer avec la personne en avant de toi à quel point ça va changer sa vie puis que c'est important, puis tu ne la convaincs pas de passer à l'action pour d'être disciplinée, elle ne le fera pas, puis ta technique va passer pour être de la merde ou toi comme de la merde. Fait que c'est vraiment une capacité de vendre. Moi, c'est drôle, tous mes coachs, je leur explique ça en partant. Je suis comme, là, tu as bien beau être la meilleure au monde, faut que tu vends ta solution. Si la personne n'est pas convaincue de ta solution, elle va en faire à moitié et ça ne marchera pas. T'sais. Fait que ça, c'est sûr que ça m'a permis de développer ma capacité d'influence, ma capacité. Fait que c'est vraiment un melting pot de plein d'affaires, d'une certaine façon. Et je dois dire que ça s'est fait bien facilement comparé à bien d'autres entrepreneurs que je connais et que je côtoie qui ont vécu des calvaires avec leurs employés. Puis c'est eux là, qui les ont engagés, qui les ont mal formés. Ultimement, tu es responsable de tout ce que tu cultives dans ton entreprise. Là. Fait qu'il y a un mix d'à peu près toute cette soupe-là d'affaires.
Ouais, ce qui est malheureux un petit peu dans ce que tu viens de dire, c'est justement, en même temps, mettons, on pourrait donner l'exemple d'un salarié qui désire apprendre et tout, mais t'sais, peu importe dans le domaine que tu es ou avec qui tu côtoies, là, tu peux toujours avoir, mettons, un poignet le 10% ou je ne sais pas moi, le 20% des gens qui ont peut-être pas nécessairement d'affaires là, fait que tu n'apprends pas nécessairement les bonnes choses en fonction de toi, ce que tu vas apprendre. Fait que des fois, tu perds un petit peu le potentiel que tu voudrais aller chercher en tant que tel. Moi, c'est comme ça que je le comprends un petit peu, ta façon de le dire. Là.
Là, j'ai manqué mon Siri a décollé dans mon ordi. Fait que j'ai manqué le premier début que tu as dit, mais tu as dit que, dans le fond, parce que là, ce que j'allais répondre, dis-moi si ça a du sens, ça n'a pas de sens, alors dis-moi ta phrase, mais notre environnement social, les gens autour de nous, c'est sûrement l'affaire qui nous influence le plus indirectement puis qu'on n'a pas tant le contrôle là-dessus puis qui est l'affaire la plus importante à changer. C'est un peu ça que tu disais?
Ce que je mentionnais, c'est ça. C'est que, admettons, on va donner un exemple. Là, je décide de travailler pour mettons, je veux travailler pour Hydro-Québec. Mettons, exemple. Mm-hmm. J'ai un exemple comme ça. Là, je suis rendu ingénieur puis là, je travaille dans un département. Je connais ça un petit peu quand même, département équipement ou électrique. Puis je me rends compte que, pour Montréal, je me rends compte qu'au chantier, la personne qui est supérieure à moi, souvent, on a peut-être un conflit, on fonctionne, sa façon de procéder n'est peut-être pas la mienne non plus, ou la façon de son leadership en tant que tel pourrait ne pas concorder aussi avec la tienne, parce qu'il y a plusieurs types de leadership, on n'en a pas parlé, mais tu sais, dans la façon que tu le mentionnais, c'était niveau influent, mais il y en a que c'est directeur, est-ce que ça correspond avec moi, ça me donne-tu de la place, est-ce que je suis heureux là-dedans, il y a tellement de facteurs aussi, juste avec la personne qui dit, peut-être qu'elle, elle fonctionne super bien là-dedans, il y en a qui peuvent fonctionner super bien avec cette méthode-là, se faire diriger, les autres sont bien là-dedans, il y en a qui préfèrent avoir plus de...
Mais je pense que ce que tu fais référence, c'est plus à, mais ça c'est selon ma définition, mais je pense que tu fais plus référence à des techniques d'influence, mettons. Parce que pour moi, le leadership, c'est un bon leader, puis c'est, ça n'a pas rapport avec la hiérarchie, dans le fond. Ça veut dire que tu peux être un employé puis être un vraiment bon leader dans ton groupe. Pour moi, c'est justement cette capacité-là qui est vraiment difficile à développer, de trouver les bons moyens pour faire en sorte qu'il y ait une cohésion avec toutes les personnes avec qui tu interviens tout le temps. Mais c'est très dur, là. C'est pour ça que je dis, ça a l'air tellement facile à dire en théorie, mais je pourrais tout le temps dire, j'avais une conversation hier avec quelqu'un de mon équipe qui est en position de leadership, puis qu'il y a quelqu'un qui n'agit pas de la façon qu'il veut, puis réprimander à personne, puis crier après, ça ne marche jamais. Ta job, c'est supposé être de faire comment je suis capable. Quand je dis inspirer quelqu'un à passer à l'action, là, ça veut dire qu'il est supposé lui-même, intrinsèquement, avoir le désir de changer sans que tu lui dises de le faire. Puis ça, la seule façon de réussir à faire ça, c'est que toi, tu essaies de comprendre l'être humain avant de toi, puis tu essaies de trouver la façon qu'il comprenne que là, il n'opère pas de la meilleure façon pour lui-même et pour tout le monde. Puis souvent, la meilleure façon pour toi-même et pour tout le monde, c'est la même façon. Là. C'est souvent bien ça, parce que tu es un morceau de toute l'entité. Puis c'est dur, tu sais. L'exemple que je donnerais qui ressemble à ça, je me rappelle aussi avec des coachs que je formais au début, on avait des rencontres, puis on parlait d'un client. On était comme, ce client-là, ça ne marche pas. C'est son attitude le problème. Puis elle ne voit pas que c'est son attitude le problème, cette personne-là. Mais à la place de, quand tu dis à quelqu'un, tu as un problème d'attitude, c'est de la grosse merde, c'est pour ça que tu échoues, il se met en mode défensif, il y a de la difficulté, tu sais, ça ne marche pas. Ce qui fait qu'on était tout le temps en mode, on est les responsables. C'est ça le leadership, c'est on est les responsables de trouver la façon de communiquer à cette personne-là pour qu'elle réalise puis qu'elle change. Puis mettons, je me rappelle d'une cliente là, précisément, puis le coach en question que je fais référence, saurait c'est qui aussi, on y fait souvent référence, qu'à la fin, proche de sa graduation, a terminé par à s'excuser, mais je pense que c'était un peu avant sa graduation, à s'excuser, puis elle a dit, vous avez... Je réalise que c'est mon attitude qui est un problème. Puis on a réussi à le faire changer sans jamais dire que c'était son attitude, son problème, mais en posant des questions ouvertes, puis en y faisant réaliser d'elle-même un peu que c'est ça. Fait que c'est dur, là. Puis il y a 1 million de clients qu'on a échappé, là, qu'on essayait, puis on disait de quoi, puis de quoi, puis de quoi, puis de quoi. Puis à un moment donné, comme, j'ai jamais réussi à trouver comment déclencher cette personne-là pour qu'elle comprenne c'est quoi les mécanismes. Fait que ça, c'était avec un client, à mon avis, c'est plus facile que quelqu'un qui est dans ton entreprise. Fait que, mettons, tantôt, tu me donnais l'exemple. Pour moi, quelqu'un qui est ingénieur puis qui arrive d'une place quelconque puis son supérieur quelconque, qui est, c'est tough parce que tu es en situation d'infériorité d'un point de vue hiérarchique, mais tu es capable, si tu es un maître communicateur, tu es quelqu'un qui réussit à saisir la personne en avant de toi puis de communiquer avec lui pour qu'il y ait une cohésion. De dire, OK, tes attentes, c'est quoi? Mes attentes, c'est quoi? J'aime pas ça quand c'est sur ce ton-là, j'aime ça. C'est tough, 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 tough de faire ça. C'est comme. C'est ça. Fait que je pense que les gens qui réussissent le plus à créer des équipes extraordinaires, c'est eux qui réussissent à créer une communion comme ça, qui a une cohésion de fou, puis une harmonie avec tout le monde. Puis c'est opéré par à peu près une personne en les inspirant à agir le mieux possible pour toute l'unité, toute l'entité, tu sais. Ce qui est tough à mort, là.
Puis, tu sais, en même temps, cette forme de d'influence-là aussi est souvent plutôt, je vais dire le bon terme, excuse-moi, je cherche mes mots, là, mais disons, on va dire synchronisé avec le fait que la personne est passionnée aussi dans son domaine. Tu as mentionné Steve Jobs, tu as mentionné d'autres personnes aussi, mais j'ai surtout Steve Jobs en tête, là, c'est toute une question de passion aussi. En fond, tu aimes ce que tu fais, puis tu veux le divulguer aux gens, puis tu veux que le monde aussi embarque dans ton train, juste, mais pas nécessairement que tu veux, mais tu démontres que tu aimes tellement ça à tel point que la personne avec qui tu parles ou avec qui tu as une conversation fait une réalisation, fait comme, hey, ça m'inspire. C'est juste le fait. Quelqu'un, tu sais, je pourrais te parler, moi, je suis un grand fan de faire du barbecue puis d'en faire régulièrement. Moi, je mange beaucoup. Oui, mais je veux dire, je fais beaucoup de recettes. Puis moi, quand j'en mange le barbecue, je fais comme, hey, la dernière fois, là, j'ai fait telle affaire, puis là, j'en parlais, puis là, hey, je vous en partais la semaine prochaine, la prochaine fois que j'en fais, puis tout. Puis, tu sais, juste ça, des fois, tu fais comme, je reçois des surnoms bizarres. Genre, parenthèse, par rapport à ça, j'ai un collègue qui m'appelait Smoke Mick parce que, tu sais, moi, j'aime beaucoup faire de la viande fumée, exemple. C'est des affaires niaiseuses de même. Puis j'ai eu le même contexte aussi quand j'ai lu, mettons, quand j'ai découvert, en fait, la liberté financière avec Pierre-Yves McSween, le deuxième livre qu'il a fait, Liberté 45. Je pense que j'ai passé une semaine de temps à parler de ça, des petits points, parce que j'ai trouvé ça vraiment pertinent en fonction de moi. De la façon que je voyais la chose aussi. Là, fait que, des fois, ça se reflète aussi. Juste le fait que tu parles. C'est pas nécessairement parce que tu veux changer quelqu'un, mais c'est juste parce que toi, t'aimes tellement ça, ce que tu découvres, ce que tu apprends.
Je ne pense pas qu'il y a aucune façon d'influencer quelqu'un sans avoir de la bonne conviction. Puis la passion, c'est ça. Là. C'est une conviction intrinsèque de quelque chose. Là. C'est cette espèce de flamme-là. Parce que sinon, comment tu fais pour... Tu sais, imaginons que je sais pas, je veux te faire triper ces papillons, là, je connais rien là-dedans, puis je n'aime pas ça, les papillons. ça marchera pas, là, tu sais, tu comprends? Il y a une énergie, là, il y a des affaires qui sont pas palpables. Là-dedans. Ouais. Moi, je sais pas si ça s'explique, c'est notre cerveau, je sais pas si c'est neurologique, je sais pas si c'est des phéromones, je sais pas c'est quoi, mais il y a clairement, c'est juste le non-verbal, je sais pas c'est quoi, mais il y a clairement plein d'affaires qui passent dans il y a quelque chose dans l'intention qui se communique. Mm-hmm. Avec l'autre personne, même si c'est pas verbal, là, tu sais.
Exact. Puis c'est tout passe par la communication aussi. Je vais revenir un petit peu sur mes questions aussi pour essayer de ne pas perdre le fil de la conversation. Comme là, tu en as déjà beaucoup mentionné par rapport à ça, sans même que je te les pose. Fait que je trouve ça vraiment intéressant.
Je ne sais pas n'importe où, fais ce que tu veux, là, de du fun.
ben oui, totalement, là. On peut quasiment se déboucher un verre de vin puis continuer dans là-dessus. Non, mais pour vrai, c'est ça, tu sais. Moi, la question que je voulais poser par rapport à ton entreprise principale qui est, ben pas principale, excuse-moi, là, mais ton, mettons le déclencheur un petit peu de ton succès qui était la transformation physique. Je pense qu'on a parlé un petit peu de façon indirecte, mais juste savoir c'est quoi qui t'a vraiment allé là-dedans, c'est quoi le déclic en fait qui t'a dit que, en tant que kin, qui veut faire de l'entrepreneurial dans ce domaine-là, pourquoi tu t'en liais là-dedans plus que, mettons, la performance sportive ou encore mettons, la prise de masse ou le, je sais pas moi, le fitness, crossfit, peu importe.
Tu vois, ça, tu me poses la question sur une perspective entrepreneuriale, puis je réalise que la perte de poids, c'est une des plus grosses industries au monde, tu sais. Puis j'essaie de réfléchir, je suis pas sûr que ça a été tant que ça un argument. C'était le premier qui pose la question dans la perspective entrepreneuriale. Puis je me rappelle pas si à l'époque, j'étais comme, c'est le plus gros marché, fait que c'est là que je vais. C'est comme un peu drôle, cette affaire-là, parce que quand j'ai rentré en kin, comme j'étais un sportif, la performance sportive, c'était comme, encore une fois, là, avec mes projets entrepreneuriales, j'étais genre, même pas encore en kin, puis j'avais déjà l'entreprise que j'allais lancer, puis je savais déjà que je voulais faire de la performance sportive, mais je connaissais rien là-dedans. Je pensais faire de la performance sportive, parce que c'était pas mal la seule affaire qui me faisait triper de la kin. Les autres, c'était pas tant un trip que ça. Mm-hmm. Puis je suis rentré dans le bac en me disant que j'haïssais la psychologie sportive, je trouvais ça con, bien tangible. Puis là, ben, on a eu Jacques Plouffe qui est une sommité en préparation mentale qui m'a fait complètement changer ma perspective là-dedans. C'est l'inverse, t'sais. Je suis sorti du bac en faisant comme la préparation mentale, c'est l'affaire, tu sais. Puis sans dire que la performance sportive, c'était mis de côté, mais il y avait tellement pas d'avenue. Surtout que je voulais rester en région. Pour moi, c'était pas un game changer. C'était pas ça. Puis je trouve que souvent, dans vie, on pense que, mettons, je vais donner cet exemple-là, mais que la performance sportive, c'est absolument ça qu'on veut, sinon on n'est pas passionné. Et je pense vraiment que la question à se dire, c'est pourquoi ça te passionne? Puis le trois quarts du temps, c'est plus comme les gens sont sérieux, les gens sont intenses, les gens sont... Puis là, tu fais, ben ça, du monde demain, t'es capable d'en trouver partout. C'est pas tant la performance sportive, dans le fond, qui est le détail. Fait que souvent, on va pas vraiment au fond des choses, puis on reste en surface en pensant que c'est obligé d'être ça. Fait que moi, j'avais pas ce feeling-là que j'étais obligé d'être en performance sportive, là, rendu à la fin de mon bac. Puis à mon dernier stage, je me suis senti pourri sur le plancher. Je faisais un stage en préparation physique, justement, pour les athlètes de l'université. Puis je lisais dans les livres les meilleures méthodes, je les mettais sur papier, j'allais montrer ça à mon superviseur de stage, je faisais... Vraiment bonne méthode, mais le groupe n'est pas capable de faire ça, ils sont pas assez avancés. Et je ne comprenais pas que toutes les personnes ne sont pas capables de faire toutes les méthodes d'entraînement. Ça prend un certain bagage d'entraînement pour réussir à faire des affaires. Puis là, je ne me trouvais pas. J'étais comme, à chaque fois, ça sert à quoi que je lis d'un livre la meilleure méthode? Si je vais te voir, puis tu me dis, c'est la meilleure méthode, mais ils ne sont pas capables de faire ça. Fait que là, je suis quelqu'un qui veut toujours aller trop vite dans la vie, moi, d'habitude. J'étais comme, je voulais être millionnaire à 25 ans. T'sais. Puis... Là, j'ai comme calmé. J'ai fait, ben là, tu vas avoir l'air cave si t'es de même dans ta job. Fait que je vais aller faire du gym général. Puis c'est ce qui fait que on graduait, je pense, le 30 avril. Puis le 1er mai, j'étais déjà engagé temps plein au centre multisport à la baie. Parce que j'avais déjà capitulé. Je vais dire ça comme ça parce que j'avais l'ambition d'être déjà à mon compte. Mais j'ai comme fait, il faut que je travaille dans un gym. Fait que j'ai trouvé une job temps plein dans un gym. Je vais là, je m'en sacre de tout le reste. Je vais là pour prendre l'expérience. Puis, à peu près 8 mois plus tard, ils ont fait un défi transformation là, le tout premier défi transformation qui se voyait vraiment plus pour des raisons marketing, là, en toute honnêteté. Puis, je veux dire, on reste un gym, là, le but, c'est qu'il y a du monde qui a le goût de se remettre en forme, mais l'ampleur du projet, c'était promotionnel, là, c'était 5 mois de perte de poids, entièrement supervisé, gratuit, 10 candidats. Puis le but, c'était d'avoir de la visibilité avec les réseaux sociaux. C'était à l'époque, avec Facebook, c'était à l'époque des concours. Les gens, fallait qu'ils nous envoient leurs photos, une description d'eux autres, puis pourquoi ils voulaient participer. On envoyait photos. Les gens votaient avec des likes. Ceux qui avaient le plus de likes, puis ça augmentait le nombre d'abonnés. C'était détraqué mental dans le temps. Fait que bref, on a fait ça. Il y avait 10 candidats pendant 20 semaines. Puis on perdu à peu près... C'est moi qui supervisais tout le processus, dans le fond. Puis on perdu à peu près en 40 puis 60 livres, je pense. Mais moi, ce qui m'a frappé, je ne sais pas si tu as déjà eu cette perspective-là, mais avec le football, on développe une drive, une confiance que, tu sais, dis-moi si j'ai tort, mais je suis pas mal sûr que je te mets au défi d'accomplir un peu n'importe quoi, n'importe quel challenge. Puis à part si tu décides que tu n'as pas le temps dans ta vie de le faire, je suis pas mal sûr que tu vas avoir la confiance de le réussir. Tu sais, si je te dis, Mick, en mai 2024, on fait un marathon, il faut que tu sois prêt. Je suis convaincu que tu as la confiance d'être capable d'être en shape pour faire ça. T'sais. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir d'intérêt.
Ben, en vérité, je le fais dans un mois et demi.
Ah bon, encore plus facile de dire oui dans ce temps-là. Mais tu vois, c'est un exemple que tu comprends parce que le sport, nous a tellement, puis je dis le sport, mais pas tout le sport, là, genre, c'est parce qu'on s'est fait tellement bourrasser pas mal qu'à un moment donné, tu fais « Ah, je suis capable de pas mal, finalement. » Ça nous permet ça. Fait que, tu sais, bon, t'as sûrement déjà observé ça dans toi, puis moi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'adultes. Puis là, il faut comprendre, quel âge qu'on gradue d'université, tu sais?
Le plus jeune, 20? Je pense, c'est 23 ans.
23? Non, mettons 23.
22, 23.
En tout cas, début vingtaine, tu sais, fait qu'on est début vingtaine, puis moi, j'ai des clientes de 40-50 ans, j'y regarde, puis je suis comme, ça me manque de drive, puis de confiance, tu sais, c'est fucked up, là, qui suis-je à 23 ans pour... Mm-hmm. Et là, par hasard, c'était pas voulu, les gens qui ont réussi à perdre 40 à 60 livres, là, ils avaient changé, pas physiquement, là, la meilleure exemple que je peux donner, c'est les femmes, particulièrement les femmes, là, au centre multisport, il fallait traverser le gym au complet pour aller dans la salle d'entraînement. Puis je me rappelle, là, les premiers cours, tous les gens, là, il y avait les chest-bras là, qui s'entraînaient, puis ils levaient des poids, puis ils faisaient des cris d'un miroir à côté, puis il y avait toute la tête basse, là, mais ils viennent là, à traverser, puis aller dans le gym, puis ils étaient gênés. Tu sais. Puis quand c'était fini, il n'y a pas personne qui avait un six-pack là, il y avait tout gros de poids à perdre, tu sais, fait qu'il était encore avec un léger surplus de poids, mais le défi avait tellement été tough, ça avait tellement été obligé de se surpasser, puis de sortir de leur zone de confort, que ça l'avait créé cette confiance-là. Puis à la fin, c'est ça que je veux dire quand ils changeaient. Ils sortaient de la salle de groupe, la tête haute, ils étaient capables de regarder n'importe qui dans les yeux parce que le chest bra qui faisait des biceps là, eux autres, ils savaient que c'était facile ce qu'ils faisaient comparé à comment moi j'ai bourrassé sur le step l'autre bord, puis c'est parce qu'ils étaient au fond tout le temps. Je travaillais beaucoup plus leur force mentale par le physique en les poussant à leur maximum que le physique dans le fond. Puis moi, ça me fait capoter. J'ai comme fait « Quoi, je suis capable de transformer des êtres humains là-dedans? » Fait que c'est un peu bizarre parce que c'est à partir de là que j'ai fait, je trouve ça malade, je veux aider des gens à perdre du poids. Fait que j'ai souvent dit que je vends de la perte de poids, mais je donne du développement personnel d'une certaine façon parce que ça permet aux gens de prendre cette espèce d'autonomie-là. Fait que ça a été la petite flamme initiale. Puis parce que juste avant ça, j'essayais de me spécialiser en douleur chronique, puis ça finissait pas avec ma... Moi, j'étais un gars de garantie, dans le sens, puis c'est ce que je coach en entrepreneuriat, là. Si tu as un bon service, tu veux que les clients viennent, fais-le une offre, donne-le ton prix, puis garantis-le ta job. Si tu fais ça, il n'y a personne qui va te dire non. Parce que si tu considères que ça vaut 2000$ perdre du poids, dis à la personne, paye-moi 2000, je te le garantis, sinon je te redonne ton 2000. Elle va te payer 2000, puis ça va être fait, tu sais. Puis si tu n'es pas capable de garantir ta job, pourquoi je te paye? Dans le fond, on ne paye pas pour des traitements, on ne paye pas pour des entraînements, on paye pour un résultat en général dans la vie. Puis en douleur chronique, ce n'est pas ça l'industrie. C'est... paye 75$ de l'heure de traitement, puis ça se peut qu'après 10 traitements, 750$, tu n'as pas de résultat. C'est comme, ah, désolé, on a fait notre possible. Fait, moi, ça n'allait pas. Là, je passais mon temps à donner des consultations gratuites si la personne ne progressait pas. J'aurais été pauvre raide si j'avais fait ça. Fait que, par hasard, le défi est venu après, un peu après ça. Puis là, j'ai décidé de laisser tomber. J'avais des formations de prévues puis tout de plus en douleur chronique. J'ai décidé de laisser tomber ça. Puis là, j'ai vraiment plongé dans le surplus de poids puis tout ça. J'étais conscient que c'était une grosse industrie, j'étais conscient que c'était quelque chose qui vendait beaucoup, j'étais conscient de tout ça, là. Je ne suis pas idiot, mais j'ai toujours eu la perception qu'un surplus de poids, c'est la conséquence de... C'est juste une illustration, c'est juste une preuve de des problèmes métaboliques qui commencent. Ton corps n'est pas en pleine santé. Là, c'est important d'identifier c'est quoi un surplus de poids, parce que là, avec le... phobie de la grossophobie puis toute la patente, là, c'est comme la plupart des femmes ont une mauvaise perception de c'est quoi un poids qui est en bonne santé. Là. Ça veut dire qu'ils sont minces, ils sont en bonne santé, mais ils veulent être comme la Barbie photoshopée là, qu'on a vue pendant des décennies. Tu sais. Ça, c'est pas une vraie femme. Toi, t'es une vraie femme. Fait que ça, il y a une distorsion là-dedans. Mais quand tu commences à avoir un surplus de poids qui est significatif, on le sait là, que c'est pas un indicateur de santé. Puis fait que c'est juste que souvent, en tout cas, c'est ça. On a une image trop mince de la femme probablement. Mais je le sais que c'est pas une histoire juste de calories. Là. Les gens vont dire oui, puis c'est tout vrai. Là. Tu peux tout sortir de la recherche que si tu mets quelqu'un en hypocalorie, il va perdre du poids. Mais est-ce que ça règle le problème métabolique, le problème de santé? Est-ce que ça l'optimise sa santé? Pas nécessairement. Parce que tu peux être en hypocalorie puis manger des pogos puis de la pizza toute la journée. Puis ça, c'est pas bon pour le corps, je peux vous le garantir. Fait que moi, j'ai toujours eu cette philosophie-là de faire comment je suis capable d'optimiser le fonctionnement du corps. Tu sais. C'est pour ça que ça a amené à l'alimentation fonctionnelle puis d'autres principes qu'on coach qui sont plus basés sur le fait de fonctionner le mieux possible. Fait que, tu sais, c'est un peu drôle. Je vendais de la perte de poids, mais dans le fond, je donnais vraiment de l'optimisation de la santé. Puis avec le temps, dans la compagnie, on a décidé de juste... Tu sais, dans le fond, il n'y a rien qui a changé, là, pour être bien honnête. Il n'y a rien qui a changé. Mais on a commencé à changer un peu plus notre message en parlant d'optimisation de la santé parce que c'est ce qu'on fait, tu sais. Peu importe t'es où sur la charte, si on a à mettre de 1 à 10, 1 étant t'es pourri dans ta santé, puis 10, t'es au top, on veut juste te faire monter vers 10 le plus possible. Que t'arrives à 9 comme client ou que t'arrives à 5 comme client, il y a tout le temps des affaires à améliorer, puis on travaille dans ce spectre-là. Puis that's it. C'est de l'optimisation de la santé. Puis si tu fais ça, non seulement tu es supposé perdre du poids si tu as du poids à perdre, mais tu vas peut-être prendre du poids si tu as du poids à prendre, puis tu vas avoir plus d'énergie, tu vas avoir une meilleure concentration. Si tu as des troubles digestifs, ils vont se dissiper si tu t'optimises ta santé. En général, pas après tous les troubles se dissipent.
Totalement d'accord. Totalement d'accord. Surtout que surtout là, que l'alimentation, on en parle, là, mais c'est un domaine tellement nuancé que souvent, tu as l'affaire. Finalement, c'est d'autres affaires. Finalement, c'est revenu avec la même affaire, mais avec une petite nuance apportée. Fait que c'est toujours une zone grise. Puis c'est un peu de quoi à jongler de façon quand même pas intensément, mais d'assez disparate. Puis je pense que c'est ton contenu que tu offres justement, c'est de permettre un peu de faire la lumière là-dessus, puis d'apprendre un peu, de permettre aux gens d'apprendre un petit peu davantage ou de développer leurs connaissances pour leur permettre d'avoir les meilleurs outils, tout simplement. Parce que ouais, tout ça change, puis tout évolue.
Tu as tellement raison, là. Il faut que les gens aient des meilleures connaissances, puis c'est ce qui est la cause des mauvaises connaissances en général. C'est une mauvaise interprétation de quelque chose. C'est le sens critique des gens qui n'est pas adéquat. Ça veut dire... Puis il y a des fois, c'est la population qui est responsable, des fois non. Voilà plusieurs années, la presse avait publié les résultats d'une recherche scientifique qui disait, l'histoire des œufs, que les œufs diminuent l'espérance de vie. Et c'est ça que l'étude dit, tu sais. Mais pas tout le monde a la capacité d'interpréter une étude de même. Fait que dans le fond, ça revient à ce qu'on a dit tantôt. C'est une étude statistique. Fait que c'est une corrélation. On observe que ceux qui mangent plus d'œufs sont plus susceptibles de mourir plus jeunes. On ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas l'explication, on ne peut pas dire que c'est l'œuf spécifiquement, mais on sait ça. Là, il sort ça dans la presse. La personne, moi, puis toi, probablement, qui a une interprétation, on est capable de dire, « Hey, c'est intéressant. Faudra aller creuser sur les causes potentielles de ça. » On est capable de les comprendre, de les provoquer, de voir d'autres études, maintenant qu'on sait ça, puis les interpréter différemment. On est capable de... Dans le fond, je reviens au processus que je disais, on est capable de provoquer une cause à effet? C'est quoi le déclencheur là-dedans? Parce que finalement, c'est peut-être le bacon avec l'œuf, fait qu'on veut le trouver si c'est le cas. T'sais. Fait que ça nous donne une piste. Mais la population en général, elle lit ça dans la presse, puis là, elle apprend, je ne peux plus manger d'œuf parce que ça diminue mon espérance de vie. Fait que là, à part avec ça. Là, après ça, arrive dans quelqu'un qui, je ne sais pas, là, justement, mettons l'alimentation cétogène ou même dans l'alimentation fonctionnelle, les œufs, ça a sa place au bout, là, c'est un aliment non transformé, ça a plein de vitamines, de minéraux, il y a des nutriments là-dedans qui sont super exclusifs au jaune d'œuf, spécifiquement le jaune d'œuf. C'est fonctionnel, là, c'est super sain un œuf. Et là, ils sont tout mêlés. Parce qu'ils font... Moi, dans mon ordi, c'était écrit que c'était mauvais. Puis ils ne savent pas pourquoi, vraiment, mais ils savent qu'à un moment donné, quelque chose qu'ils ont considéré crédible à faire. Ce qui fait que les nuances sont vraiment importantes. Si un culturiste dit que les produits laitiers, tu ne peux pas manger ça, pourquoi? Dans quel contexte? Dans quel objectif? Parce qu'il y a des grosses chances que ce soit dans le contexte du culturisme. Puis si quelqu'un te dit en alimentation hypotoxique que tu ne peux pas prendre de produits laitiers, il y a sûrement une raison. Dans son contexte, fait que c'est tout le temps d'interpréter le sens. Puis c'est ça que les gens ont de la difficulté. Mais moi, c'est ce que je veux inviter les gens à faire, c'est de dire, plutôt que faire, ces deux-là, ils disent différent. Non, ils ont une perspective différente. Mais le trois quarts du temps, ils seraient d'accord sur ce qu'ils sont en train de dire. Mais il faut qu'ils regardent les deux dans la même perspective. Parce que si tu veux prendre de la masse musculaire, tu sais, en longévité, les recommandations de protéines sont à peu près pratiquement la moitié moins que si tu veux prendre de la prise de masse musculaire, même plus que la moitié. Parce que ça semble, c'est pas d'évidence très, très claire, mais que plus tu manges de protéines, plus ton espérance de vie semble diminuer versus moins tu en manges, mieux c'est. Fait qu'eux autres, ils vont dans le minimum, mais c'est des perspectives différentes. Fait que ça revient à c'est quoi ton objectif, finalement, un peu comme on disait au début.
Non, c'est ça. Puis tu sais, faut pas non plus prendre tout au pied de la lettre, justement, parce que l'objectif, c'est vraiment dépendant de chacun. Puis tu sais, là, tu me parles de contexte de protéines, mais encore là, tu n'as pas nommé la protéine. Puis, tu n'as pas nommé aussi l'occasion. Est-ce que ta protéine, d'habitude, est-ce que tu apprends avec un verre de bière? Est-ce que tu apprends avec de l'eau? Est-ce que tu apprends à la faire? Puis, en plus, il faut mettre en jeu un autre, aspect de l'alimentation qui s'appelle un peu la, je pense que je le dis bien, c'est la nutrigénomie. Mais ça, c'est vraiment par rapport à comment interpréter un peu la consommation de tel type d'aliments en fonction de tes gènes. Mais ça, c'est tellement un concept qui est poussé que le monde ne s'intéresse pas à ça nécessairement, qui fait que c'est plus... fait que le principe de cause à effet n'est peut-être pas aussi poussé. Puis encore là, il faut faire d'autres recherches. Puis c'est ça qui fait qu'on...
Mais c'est ce qui fait... Je pense que où ce qu'on a le contrôle, c'est plus d'émettre les questions, de comprendre c'est quoi les zones rouges, les zones jaunes, les zones vertes, tu sais. Puis là, après ça, de... Tu sais, mettons justement... La génétique, ça commence à être compliqué, mais si toi, là, ça fait 15 fois que tu l'essayes, puis à chaque fois que tu prends des produits laitiers, ça va pas bien, ou tant, faut que tu prends du poids, fuck les produits laitiers, on s'en sac, t'as pas besoin non plus d'aller faire un test d'allergène. Tu le vois, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je pense que on a une... À l'ère d'aujourd'hui, là, moi, dans mon domaine, puis tu sais, j'ai un podcast aussi, tous les invités que je viens, là, de tous les intervenants en santé, de tous des domaines différents, je pense qu'il n'y en a pas un qui ne m'a pas dit au moins une fois qu'on a un problème de pleine conscience, qui est juste d'être fucking à l'écoute de notre corps. C'est un des problèmes les plus graves qu'on a. Fait qu'on essaie de trouver une solution, puis on n'écoute pas ce qui se passe. Si tu n'écoutes pas le feedback, tu ne peux pas savoir si c'est bon, si c'est mauvais. C'est que il y a un côté là-dedans. Fait que, mettons, la génétique, je prends jamais ça en considération, je n'ai pas la capacité de la prendre en considération, mais j'ai la croyance, puis elle est peut-être fausse, mais j'ai la croyance que si tu t'écoutes, il y a des grosses chances que tu alignes ta génétique en même temps, juste en t'écoutant un petit peu, en étant conscient un peu de c'est quoi ta concentration, comment ça va, ta faim, ta digestion, le corps est fait pour bien aller. S'il ne va pas bien, il y a quelque chose entre les pattes là, qui le dérange. Tu sais.
Ouais, mais c'est des habitudes en fait qui fait la majorité du pourcentage en fait du succès. Là. La génétique, c'est une petite partie, on s'entend. Là.
Ouais, même que... Ben, écoute, j'ai eu Geneviève La Bonté Chartrand sur mon podcast, une psychologue, puis c'est la première fois que je voyais ça, c'est une psychologue qui utilise justement une approche globale pour remédier aux problèmes de santé mentale. Le spectre qu'elle traite est large, là, ça va de l'autisme au TDA, aux dépressions, anxiété, là. Est capable de réduire significativement les symptômes de l'autisme. Tu sais, qu'on est comme, moi, quand elle me dit ça, j'ai comme, quoi? C'est comme de quoi qu'on prend pour acquis, tu sais? Puis ce qui a amené à ça, c'est que son enfant était autiste. Tout le monde disait comme, c'est même, puis tant pis, tu sais. Puis maintenant, elle a croisé une personne qui a fait, non, il y a des affaires qu'on est capable d'optimiser. Puis elle a fait, quoi, là? Parce qu'on sait maintenant que la santé psychologique, le microbiote, entre autres. Puis elle a étudié ça en fou dans la tête, justement, l'épigénétique aussi, qui est justement ça. Puis elle disait, je pense qu'elle disait, il y a 4 gènes qu'on connaît qui sont vraiment condamnatoire d'une certaine façon. Toutes les autres, si tu as une prédisposition au diabète, si tu as une prédisposition à certains types de cancers, une prédisposition, c'est toutes des affaires qui vont se déclencher seulement si l'environnement est adéquat. Si ton environnement est optimal, pas de déclenchement de ces facteurs-là. Puis tu peux même changer la génétique à long terme puis faire en sorte que ton enfant n'ait plus cette vulnérabilité génétique-là. Fait que tu sais, on a beaucoup plus le contrôle qu'on pense, là, beaucoup plus.
Je te remercie beaucoup de ça. Je pense qu'on va pouvoir conclure un petit peu. Ça fait quand même un bon bout qu'on discute. On va conclure un petit peu l'épisode d'aujourd'hui, si tu veux. On va commencer. Écoute, on fera du off-cam, c'est correct. On pourra continuer après, il n'y a pas de problème. Je voulais savoir, tu sais, avant qu'on conclue, tu sais. C'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de prendre le temps, en fait, de répondre à ma demande. Puis je voulais savoir aussi c'était quoi la suite, c'est quoi tes projets futurs, parce que tu as comme parlé de ça vite, mais je trouvais ça intéressant peut-être de le mentionner. À part ton livre qui est à 3/4 écrit. Là.
Dans quel spectre, là? On parle de quoi tu veux qu'on aborde? De ce que...
Oui, excuse-moi.
J'ai une phase de ma vie où j'ai jamais eu autant. Vu que j'ai grandi avec une belle équipe, là. C'est fou. J'ai jamais vu autant de projets qui avancent en même temps. Des fois, je suis capable de bien raide. Fait que dans le domaine de santé uniquement ou dans toute ma vie, mettons?
Ah, vas-y comme tu le sens, je te dirais, vas-y avec ce qui te traîne en ce moment. Là, c'est quoi ton futur projet? Là?
Mettons... Tout me fait triper, mais je vais y aller un peu plus en les listant plus rapidement. Là, mais mettons juste dans Révolution Santé, ce qui est bien excitant en ce moment, il y a le sommet Révolution Santé qu'on a fait la première édition cette année, 900 places de vendues, je pense 200-300 en virtuel pour une première édition, c'est détraqué mental. Fait que là, on a la version 2024 là, les inscriptions devraient sortir dans un mois à peu près, selon la date d'enregistrement d'aujourd'hui. Ça, c'est cool, ça ne fait que qu'embellir puis grandir, je trouve ça cool au bout, la promotion de la santé, c'est génial. Le livre, évidemment, c'est quelque chose qui est vraiment sweet. C'est pas à venir, c'est à la fin, mais je suis en train de faire une tournée de conférences que c'est compliqué, hein? On vit en région éloignée, fait que faire des tournées partout à travers le Québec, pour nous autres, c'est un peu plus lourd. Mm-hmm. On est de 2 à 5 heures d'à peu près toutes les villes. Je dis à 5 heures, même 8 heures à Gatineau, c'est loin, en Jésus-de-Plate. T'sais. Fait que... Mais ça m'a vraiment excité. Fait que là, il n'y a rien de planifié encore, mais on commence à mettre à l'horaire une prochaine tournée parce que j'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé ça être en contact avec les gens. J'ai trouvé ça cool. Puis mettons, je vais dire ça large comme ça, mais on est en train de tout réorganiser notre contenu sur Évolution Santé. Fait que si vous aimez la santé puis vous voulez juste des conseils, des affaires tout le temps à gauche, pas à droite, là, dans le contenu gratuit, il va y avoir vraiment beaucoup de stock qui s'en vient prochainement. C'est ça. Ça, c'est cool. Il y a notre podcast Révolution Santé aussi, ben, qui est très intéressant et qui a du contenu de plus en plus, qu'on upgrade un peu la version même prochainement avec plus de stock. Ça, c'est tout ce qui se passe un peu dans Révolution Santé. J'oublie peut-être des trucs. Dans mes projets personnels, ben, c'est rendu que je chapeaute des entrepreneurs de plus en plus dans la croissance de leurs entreprises. Fait que j'ai commencé à faire ça parce que moi, ça a changé ma vie, le mentorat, le coaching. Ce qui fait que j'ai, dès l'instant que j'ai commencé à avoir du succès, j'ai fait, c'est sûr qu'un jour, je coach des entrepreneurs parce que moi, j'ai tellement travaillé dur, puis c'est juste parce que je travaillais mal que j'avais pas de résultats. Fait que j'ai travaillé longtemps pour rien. Puis je veux pas que les. Je suis un fervent croyant qu'apprendre des erreurs des autres, pas mal une façon d'avancer vite. Là. Fait que bref, il y a ça dans Client Limité que ça s'appelle. Et là, il y a le projet est fou, puis ça, c'est l'affaire un peu excitant qui s'en vient, qui est très, très, très embryonnaire. Mais tu sais, partageons aux gens qu'est-ce que j'ai en tête. C'est. Je commence à changer ma perspective un petit peu. D'aide entrepreneuriale. Je continue de coacher, c'est clair. Mais là, de plus en plus, je me rends compte qu'on se démarque sur des affaires précises en entrepreneuriat par rapport à des entreprises au Québec qui ont du succès. Puis là, mais je m'intéresse de plus en plus à devenir vraiment un format d'investisseur avec d'autres entreprises. Fait que dans le fond, j'ai des talents qui sont extraordinaires et qu'on se démarque. Au début, je ne le savais pas, tu sais, parce que tu fais ce que tu connais dans ton entreprise. Puis là, j'ai côtoie de plus en plus d'entrepreneurs, des entrepreneurs qui ont des gros, gros chiffres d'affaires. Puis je me rends compte qu'on est vraiment solide dans des trucs, puis ça, c'est en contribuant à des entreprises avec nos talents, on le sait qu'on peut les aider à augmenter leur chiffre d'affaires, fait que là, je suis un peu dans cette perspective-là, ça veut dire de vraiment voir des entreprises, voir comment on peut contribuer, acheter des parts d'action, acheter l'entreprise au complet, fait que là, ça commence vraiment à être une espèce de game d'investissement, puis ça nous permet aussi de, ben, faut de faire des acquisitions complémentaires à ce qu'on fait déjà, qui s'en vient, là, tu sais. Hey, il y a une application mobile Révolution Santé, ça s'en vient aussi, ça, c'est quand je suis content
de
parler de ça, ouais.
Ah ouais, vrai, ça va. Est-ce que c'est comme un genre de complément à ton site ou c'est vraiment
là,
différent
moment,
complètement?
Il va y avoir probablement plusieurs phases, mais dans le fond, la phase 1 de l'application, c'est pour, je vais dire, calculer des macronutriments, même si je n'aime pas ça dire ça, mais je vais dire, c'est pour répertorier ton alimentation. Puis je suis vraiment content de l'application parce que je suis un anti-calorie dans la vie, ce qui fait qu'il n'y a pas d'indicateur de calories là-dedans. On n'est pas capable, là. Maintenant, il faut calculer le métabolisme de la personne, faire des évaluations, tout ça, mais c'est basé énormément sur la qualité des aliments. Fait que c'est la première application mobile que, oui, il y a les macronutriments, mais pour moi, les macronutriments, c'est moins important que la qualité. Fait qu'il va y avoir un indicateur de transformation des aliments. Il va y avoir un indicateur de vitamines, de minéraux, de prébiotiques, de probiotiques, puis de phytonutriments qui sont composantes d'implants qui sont super positives. Parce que ce qu'on veut inciter... Ah, l'index glycémique aussi pour la stabilité énergétique. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment des indicateurs trippants. Ce qui fait que même si tu manges toutes tes calories, tu peux avoir tous tes paramètres-là bas qui te dit t'as mangé de la cochonnerie aujourd'hui, c'est de la merde. Ton alimentation n'est pas fonctionnelle, tu sais. Fait que ça, c'est de quoi qui est cool, mais il vient avec ça. Justement, on veut réussir à connecter toutes nos formations en ligne qui sont via l'application. Mais là, une phase à la fois pour réussir à lancer ça. Fait que ça, c'est un projet que je trouve... vraiment cool, qui va s'en sortir bientôt. Puis on cherche là, beaucoup, activement. On veut essayer de faire offrir des repas fonctionnels préparés. C'est juste la logistique bien complexe. Fait que on est en processus de ça. Un jour, ça va venir, c'est sûr. Là. Fait que tu sais, comme je te dis, je suis tellement content. Là. On a plein de staff, puis tout le monde. J'ai pas le crédit de rien là-dedans. Là. Ben, j'ai le crédit de chapeauter, donner mes idées, puis laisser le monde partir. J'ai rien de ce que j'ai listé dans Révolution Santé que c'est moi qui fais.
Bon, c'est incroyable. Je t'écoute, je fais comme mon Dieu, j'ai plein de questions, mais en même temps, j'avais une question en particulier que je voulais te dire avant de conclure, c'est que est-ce qu'on va te voir pour la saison 2024 de Dans l'œil du dragon?
2024, impossible. Mais là, tu sais, ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup. Tu sais, c'est con, là. C'est tellement. La vie est ainsi faite. Je sais pas s'il y en a que ça choque, là, mais tu sais, genre, c'est juste absurde. Mettons qu'on réfléchit ensemble, tu sais, puis je décide. Là, dans le fond, mon plan, mettons, en termes d'investisseur, c'est que je n'ai pas un pedigree d'investissement suffisant pour commencer à avoir des investisseurs externes. Ça veut dire qu'il y en a des fois que si mon talent est tellement bon, à chaque fois que j'investis dans une compagnie, je réussis à doubler son chiffre d'affaires en un an. Mais des fois, il y en a qui vont réussir. Mettons, toi, tu as de l'argent en banque, là, puis tu as 100 000 qui traînent. Je fais comme, hey, je cherche des investisseurs, tu me donnes 100 000, puis là, on fait une entente ensemble. Moi, ça me permet d'acheter une entreprise, je fais fructifier l'entreprise, puis toi, tu as une partie du rendement, puis moi, j'ai une petite partie du rendement. Fait que c'est comme en immobilier, quand quelqu'un met le cash, puis l'autre s'occupe de toute la gestion, puis il se split d'une façon quelconque les revenus. Ça se fait, tu sais. Mais là, j'ai pas cette confiance-là, parce que moi, je veux être sûr, je prendrai pas ton argent si je suis pas sûr à 100%. Ben, on n'est jamais sûr à 100%, mais je suis pas très confiant de réussir à faire fructifier. Et là, pour l'instant, je vais probablement faire une ou deux, trois transactions avec mon propre argent, puis essayer de faire des ententes comme ça pour avoir des preuves, puis faire OK, me donner confiance, faire OK, c'est vrai, on est capable de faire ça. Même si je suis très confiant déjà, mais j'aime mieux le faire le risque avec mon propre cash. Mais après ça, j'aimerais ça, si ça marche bien, là, je suis fou là, parce que là, je veux aider le plus de monde dans la vie. Fait que je suis comme quelle autre entreprise que je peux acquérir qui va avoir plus d'impact. Puis je vais essayer d'aider ces entreprises-là à croître. Fait que là, si je fais ça, ben après, c'est quoi ma façon d'avoir le plus d'opportunités d'investir? C'est d'être connu en tant qu'investisseur. Puis c'est quoi la meilleure visibilité que je peux avoir? C'est dans l'œil du dragon. Fait que, je veux dire, à un moment donné, j'aurais du fun, il n'y a pas de doute, mais c'est sûr que ça devient stratégique. Fait que, à quelque part, là, ben loin sur ma liste, je tripperais bien raide d'être là, mais là, ça me prend assez d'argent d'abord pour pouvoir acheter des entreprises. Là, en ce moment, j'ai pas assez le portefeuille assez épais pour aller dans l'œil du dragon, là, je te dirais. Mais non, c'est quelque chose, c'est à bucket list qui serait trippant.
Non, c'est ça. Tu veux te créer une garantie avant de te lancer là-dedans. Si j'ai tout compris, notre discussion d'aujourd'hui, c'est que tu es un créateur de garantie.
C'est exactement ce que j'allais dire. J'étais comme si tu. Qui va garantir à un client de perdre, mettons, 40 livres s'il ne l'a jamais fait? Bonne chance, tu sais. Tant qu'à ça, fait une fois gratuit avec une personne et la preuve. Puis après ça, avec les autres clients, garantis-leur, mais c'est audacieux un peu de le garantir. Sans payer. Là. Fait que ça fait partie de toutes les folies que j'ai. Puis on se parlerait dans 3 semaines, puis il y en aurait probablement des nouvelles. Là. Fait que c'est un peu ma vie folle que j'ai.
En tout cas, je te souhaite de les écrire dans une liste, dans une bucket list pour au moins les réaliser avant 50 ans, ce serait bien.
On s'en parlera. Réinvite-moi dans un an. Là. Puis réécoute cet épisode-là, écoute ce qu'il y a à la fin, puis on se parlera de tout ce qui s'est passé en un an.
Je pense que je vais le faire pour vrai. Si l'invitation. C'est une semi-invitation, oui, je le ferai. J'ai le goût de savoir. Je suis curieux.
Ouais, la balade dans ton camp, tu me réinviteras rendu là.
C'est bon, fait que je te remercie.
Pour moi, c'est un peu un jeu. Là. Je veux dire, je me lève le matin, puis c'est le but. Là, je veux dire, on essaie de progresser dans cette. Fait que si je ne l'atteins pas, tant pis. Si je l'atteins, tant mieux. On verra. Hey, on part avec un suspense.
Oh. On va mettre un bout de fond à la fin. Fait que je te remercie beaucoup, Alex, de ton temps, puis je te souhaite une bonne soirée.